Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast d'actualité, podcast 355 déjà. Avec moi aujourd'hui, Rami qui se marre beaucoup, ouais. Carole qui se marre pas mal aussi.
Salut.
Et Julo qui se marre pas... Ah si, il se marre aussi, autant pour moi. Aujourd'hui, nous allons revenir essentiellement sur des jeux. Et nous allons d'ailleurs passer au sommaire des jeux dont nous allons parler cette semaine, à savoir Zelda Triforce Heroes. Est-ce que c'est cet épisode 3DS l'épisode le plus décevant de la série? Alors c'est Yann qu'on va avoir en duplex qui va répondre à cette question. Nous allons aussi évidemment discuter de la grosse sortie de la semaine, à savoir Assassin's Creed Syndicate, que vous avez peut-être pu vous faire livrer en calèche aujourd'hui dans Paris, ce 23 octobre 2015. Évidemment, Julo n'a pas encore fini le test, mais il va nous donner des impressions déjà bien
arrêtées,
bien avancées.
Bien tac-tac, tu vois.
Exactement, tac-tac.
Voilà.
Il y a aussi Project Zero, la prêtresse des eaux noires, qui est sortie sur Wii U, un petit survival horror qui succède à une série de jeux très appréciés, notamment au Japon. Et c'est Carole qui va nous en parler parce qu'elle aime beaucoup le survival horror.
Absolument.
Et il paraît qu'elle a bien kiffé. Et nous finirons avec l'un des plus gros prétendants au titre de jeu de l'année, à savoir Life is Strange, le jeu épisodique narratif de Dontnod, qui a énormément plu au sein de la rédaction, à commencer par moi. Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi Poufleguen derrière la caméra qui pourrait vous dire ça. Bref, on en parle tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons parler de ce que nous avons retenu de positif cette semaine. Et je vais me tourner vers toi, Carole.
Absolument.
Qu'est-ce qui a winné cette semaine?
Oh, le win! C'est la petite fleur pèlerin, notre ministre de la Culture,
ouais.
Qui m'a bien fait rire ces derniers temps.
Pourquoi?
Parce que je ne sais pas si vous aviez vu le petit reportage.
Non.
Elle était passée dans une émission.
Ah oui, j'ai vu, sur le petit journal.
Exactement, c'était le petit journal.
Où il visitait son bureau, voilà, et elle connaissait rien de son bureau.
Exactement, voilà. C'est comme si on vient faire un petit reportage chez Gameblog et puis qu'on ne sait pas.
Mais ce qui était appréciable, c'est qu'elle s'est pas démontée et elle s'est marrée. Voilà, c'était
elle
ça.
A pris, la première
rigolée. Mais c'est pas pour ça qu'elle a winné cette semaine.
C'est pas pour ça qu'elle a winné. Elle a winné parce qu'elle a déclaré que le jeu vidéo faisait partie intégrante du patrimoine culturel français. Hein, c'était chez Dontnod, d'ailleurs, Julien était présent.
Ouais.
Et donc, elle a déclaré que...
Parce que tu viens de dire, donc.
Tout à fait, absolument. La création d'une nouvelle aide, le fonds d'avance participative jeux vidéo.
Voilà, le
FAPJV.
Ouais.
Alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas manqué de se marrer sur la toile, effectivement.
Ça va fapper, oui.
Ça, c'est exactement ça, mais on va pas.
Alors, à quoi correspond ce fonds d'aide?
Donc, ce sera donc les chiffres 20 millions, soit 5 et 15 millions débloqués par le CNC.
Ouais.
Donc, c'est quand même pas mal. Et la caisse de dépôt en faveur des entreprises à partir donc de 2016. Ce qui
D'accord.
fait que ces aides vont être versées directement aux entreprises, pas pour la création de jeux vidéo en particulier, mais vraiment pour aider les entreprises, puisqu'il faut savoir qu'en France, c'est un petit peu compliqué. Le trois quarts des entreprises sont obligées de s'auto-financer et donc ça fait plaisir de voir que le ministre de la Culture que l'État s'intéresse aux petites entreprises.
Parce que le ministre de la Culture, elle est un peu obligée de soutenir
c'est un petit peu son job, mais bon voilà, donc ça fait
plaisir. Elle a toujours été très en faveur du jeu vidéo,
on l'avait d'ailleurs rencontré à la remise de la médaille de Légion d'honneur David Cage.
Très bien.
Donc elle avait fait un petit discours, en tout cas moi c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal, qui me fait bien rigoler. En tout cas, voilà un joli win cette semaine, qui fait bien plaisir.
Tu sais bien que la vie n'est pas faite que de win.
Exactement, il y a aussi des fails,
aussi
mais
des
ça
fails.
C'est pas
et
moi
là,
qui m'en occupe.
C'est Rami qui va se charger du fail aujourd'hui. Le fail, quel est-il?
C'est de Kojima.
C'est Kojima. Qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'elle a fait?
C'est l'affaire sur son départ, en fait.
Son départ, pourquoi son départ? Qu'est-ce qui se passe son départ? C'est normalement, il doit partir le 1er décembre, on est d'accord.
Il doit partir le 1er décembre, mais en fait, le New Yorker a relaté qu'il y a eu un pot au feu de départ qui a été organisé chez Kojima Productions.
D'accord. Donc il aurait quitté finalement les locaux définitivement là.
C'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'en fait
il a posé ses dernières vacances, comme quand on sait qu'on va se faire virer.
Normalement il a signé jusqu'au mois de décembre.
Ouais.
Mais techniquement, il est en vacances, un peu comme toutes ses équipes chez Kojima Prod.
D'accord.
Mais
qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau du fail alors? Parce que je comprends pas bien.
Parce qu'en fait, le New Yorker a relaté en fait qu'il y a eu un pot de départ, que c'était terminé, que Kojima partait. Et le lendemain, Konami a réagi en disant non, il est toujours employé de chez Konami, ne vous inquiétez pas, il est là, il n'est pas parti encore.
On n'a jamais entendu parler de pot de départ non plus, c'est
non,
ça?
Non, c'est ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas entendu parler d'un pot de départ.
Pot de départ pour les vacances.
Ils ont pu fêter autre chose.
Ils sont en vacances.
Après, c'est dans la même journée qu'après que Konami ait démenti la chose que le... le rédacteur du New Yorker a posté une photo en disant bah voilà l'image du pot de départ que...
Mais c'est avéré que c'est l'image du pot de départ ou...
On sait pas pour le moment, enfin on peut pas savoir parce que ça peut être aussi bien la fin du développement d'MGS5 qu'ils peuvent fêter quelque chose en particulier, on sait pas trop.
Bah les vacances
de tout le
monde.
Après c'est le New Yorker, ils sont peut-être pas non
oui,
plus...
Oui, le New Yorker est quand même réputé.
C'est quand même sérieux.
Le rédacteur a quand même reconnu, donc on peut lui faire un minimum de confiance. Après, ce que c'était vraiment l'image du pot de départ, on le saura.
Et il n'y avait pas d'exécutif, visiblement.
Non, il n'y avait pas d'exécutif. Il y avait juste Kojima. On pouvait voir Imaizumi, le producteur du jeu. On pouvait voir.
C'est vraiment les équipes de Kojima Production.
Kojima Prod, ouais. C'est tout.
D'accord.
Uniquement.
Ah oui, c'est effectivement si Konami commence.
Si
à
c'est un
pot
de départ et qu'il n'y a pas les pontes de Konami,
c'est un petit peu compliqué.
Ça relève bien de l'ambiance.
Bon, en parlant d'ambiance, tiens. Ça tombe bien que tu parles d'ambiance, Jo, parce qu'on va parler un peu beaucoup d'ambiance avec le chiffre de la semaine.
Eh oui.
Parce que le chiffre de la semaine, alors faut pas croire, hein, là, avec le bruitage qu'on a, c'est pas joyeux du tout, puisque.
Bah pourquoi pas,
je sais pas.
Pour certains, à mon avis, c'est très difficile.
Bon, alors oui, alors.
De quoi on va parler avec le chiffre?
Bah on va parler de Vivendi et donc de Vincent Bolloré, comme on l'a fait déjà la semaine dernière. Et pourquoi est-ce qu'on en reparle cette semaine? Parce que notre ami a remis au pot, comme on dit.
Ouais.
C'est-à-dire que, non content des 6 et quelques % qu'il avait obtenu à coup de millions.
170 millions.
La semaine dernière.
Sur,
eh bien, on a appris que
Vincent
l'opération donc de Vivendi pour s'approprier des parts d'Ubisoft a continué et il en possède donc aujourd'hui après avoir ajouté quelques millions pour arriver à un total de 278, hein, 244 millions sur Ubisoft et 34 sur Gameloft, pardon.
Et donc les chiffres du coup sont...
Et alors les chiffres ont très très augmenté, on est à 10,39% de part d'Ubisoft et 10,20% de part pour Gameloft. Voilà les chiffres de la semaine.
Il n'était pas en position de grosse force là, l'ami Vincent Bolloré.
Eh bien, grâce à ce move, comme on peut dire, eh bien, il devient tout simplement le premier actionnaire d'Ubisoft. Hein. Il a plus de parts que la famille Guillemot, hein, qui en détient 9,4. Voilà, donc ça c'est un move très important.
Ouais.
L'achat agressif entre guillemets d'actions d'Ubisoft pour représenter une part importante du capital a encore augmenté. Mmh. Et ça fait de lui évidemment quelqu'un de très important au sein de la société.
Bien que
ça crée un petit peu de peur hein, du côté d'Ubisoft, on a pu le sentir, de crainte en tout cas, et puis une volonté d'Ubisoft de rester indépendant, hein, donc il y a M. Guillemot qui avait déclaré nous voulons rester indépendant, sachant qu'il n'a pas été encore apparemment en communication avec Bolloré.
Ouais.
Et que donc il y a une espèce, on se regarde en chien de faïence, il y a un moment ils vont devoir parler.
Mais autrement que par, je veux dire que par communiquer.
Non, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au bout d'un moment l'actionnaire est tellement important qu'il va bien falloir commencer à discuter. Donc voilà, c'est évidemment. Alors il faut juste noter un truc que je regardais en cherchant quelques infos sur cette situation. Il y a apparemment un jeu de droit de vote double pour la famille Guillemot.
Ouais.
Au sein d'Ubisoft qui fait qu'ils ont encore plus de pouvoir que Vincent Bolloré et donc Vivendi. Cela dit, c'est des genres de choses qui peuvent changer hein, parce que quand on a un actionnaire très important qui vient à la table, et c'est bien possible que c'est ce qui se passe hein, puisque Vivendi a déclaré qu'il ne s'interdirait pas d'augmenter d'ailleurs sa participation encore et même se réserverait la faculté le moment venu de demander à être représenté à leur conseil d'administration et quand
alors
on est au conseil d'administration on participe aux décisions
au board blablabla
il le fait petit à petit mais en même temps c'est très rapide hein. On en parlait la semaine dernière, on en reparle cette semaine, on en reparlera peut-être la semaine prochaine.
Bah, c'est certain non, la semaine prochaine on va avoir des surprises encore hein.
Dans tous les cas il y a un moment où il va donc s'asseoir à la table et avoir un pouvoir décisionnaire très important. Alors,
ça doit pas être la teuf là.
Voilà, donc ils peuvent s'imaginer une future OPA. C'est ce qui pourrait arriver. Après, on sait que dans l'histoire d'Ubisoft, hein, il y a déjà eu un actionnaire extérieur très important, c'était Electronic Arts, qui a jamais osé hein, faire l'OPA parce que faire une OPA c'est assez dangereux parce que que tu risques d'avoir une coquille vide finalement avec des gens qui partiraient suite à cette agressivité. Voilà, je pense que il va y avoir d'autres moves encore à venir. Ça va être intéressant à suivre. Mais dans tous les cas, c'est évidemment une prise de participation tellement importante que elle pourra pas être niée longtemps par le board d'Ubisoft, quoi. Donc suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine avec de nouveaux chiffres, mais en tout cas là, avec plus de 10% de la société, des sociétés d'Ubisoft, eh bien Bolloré pèse lourd.
Est-ce qu'on pourrait craindre là dans les semaines? J'ai déjà dû poser la question la semaine dernière, mais un grand ménage comme il a opéré un petit peu chez Canal+.
Ah bah ça, on sait rien de ses vérités, on sait simplement que pour lui le.
Est-ce que tu penses qu'il a passé
vidéo...
Maïtena Biraben à la tête d'Ubisoft? C'est ça la grande question.
Le jeu vidéo fait évidemment partie de sa stratégie avec de médias.
Médias à 360 degrés, voilà. Pour avoir vraiment quelque chose de jeune et dynamique, bah, c'est le jeu vidéo, il faut.
Après, on va voir comment il va faire, comment gérer les choses intelligemment à sa place.
Je suis là,
c'est
Vincent,
peut-être pas.
Je suis là.
C'est peut-être pas en étant trop agressif.
Je vais te barrer.
Achète-moi.
Il faut voir. Ça sera intéressant à suivre.
De toute évidence, il veut faire du bien et il va faire du bien, je pense.
Ah bon, ça, on sait pas.
Il veut faire de la thune d'abord.
Voilà, mais je pense qu'après.
Et
bien,
c'est
les
pas
dirigeants...
seulement faire de la thune, c'est. Enfin,
c'est faire prospérer le.
Voilà, prospérer son entreprise.
Il veut du bien, je pense. Voilà.
Mais
à Ubisoft,
mais faire prospérer une entreprise, ça veut pas dire forcément faire du bien à tous les employés.
Bah, c'est les dirigeants qui, je pense, voilà, doivent avoir. Ce qu'on disait la semaine dernière, qui à mon avis, c'est même sûr, on les chocote. Après, je pense que oui, il veut faire prospérer
Ubisoft. Non, mais c'est sûr
Ubisoft,
que quand t'as un inconnu qui débarque dans ta baraque et qui dit je suis là, moi j'ai acheté 10% des murs.
Voilà.
Tu le regardes et
t'as
envie de le jauger, quoi.
Ça alors, t'est déjà arrivé.
Tu regardes le passif, tu regardes ce qui s'est passé chez Canal+, machin, etc. Et donc, ça peut nourrir quelques inquiétudes.
En tout cas, il a un appétit d'ogre. Hein. C'est pas.
C'est clair, il a la dalle et il continue. Et ça se trouve, il ne s'arrêtera jamais. On ne sait pas.
Il ne s'arrêtera jamais.
Quoi qu'il en soit, nous allons passer maintenant à la partie jeu de ce podcast. Et nous allons commencer immédiatement avec The Legend of Zelda Triforce Heroes, qui est sorti sur 3DS ce 22 octobre. Et pour en parler avec nous, le spécialiste, j'ai envie de te dire, des jeux Nintendo sur Gameblog, c'est Yann. Yann, es-tu avec nous ?
Je suis avec vous.
Ah, Yann est avec nous.
5/5.
Très bien, 5 sur 5, mais c'est pas du tout la note que t'as mis à ce Zelda.
Non, là c'est plutôt 3 dans ce cas-là.
Combien, pardon?
Plutôt 3 du coup.
Plutôt 3, mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tellement rare qu'un Zelda.
Je suis vachement déçu.
C'est surprenant.
Ouais, un Zelda avec, je veux dire, avec une réception, parce qu'il n'y a pas que toi, hein, évidemment, dans le monde qui a l'air d'avoir été déçu. J'ai lu d'autres reviews assez mitigées à ce sujet, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait mal en fait ce Zelda?
Ah, les explications, la liste est longue, ouais. Mais pour résumer, je dirais que c'est un jeu qui aurait dû rester sur la lignée de Four Swords, c'est-à-dire qu'en fait, en cherchant à aller chercher le jeu en ligne, on est parti sur une dynamique qui fonctionne pas très bien en ligne et qui est très très fastidieuse en solo.
D'accord.
Et donc ça reste l'idéal, c'est toujours de jouer en réseau local, mais l'un dans l'autre, voilà, il est un peu le cul entre deux chaises, hein, je dirais, de ce point de vue là.
D'accord. Alors voilà. en résumant un petit peu l'histoire, parce qu'on est obligé de jouer, enfin l'histoire c'est qu'il y a trois clones de Link en fait qui jouent ensemble, mais est-ce qu'on peut résumer rapidement?
Il y en a deux. Il y a Link et deux pantins.
Ah, pantins. C'est comme ça qu'ils sont appelés?
Oui, alors. Ouais, alors, ouais, ils s'appellent des pantins. Ça, c'est quand tu joues en solo.
D'accord.
Sachant que quand tu joues avec d'autres aventuriers, donc en ligne ou en réseau local, c'est d'autres Link, là.
Ouais.
Il n'y a pas de. Et l'histoire, si tu veux, c'est ce qui est assez malin de la part de Gretzo, c'est que. C'est le studio hein, donc qui s'en était occupé, notamment des remasterisations d'Ocarina of Time et de Majora's Mask.
Ouais.
Donc, ce qui est sympa, c'est que vraiment, ça commence bien parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Tu as une autodérision, ça se passe dans le royaume des Stoffs, tu as la princesse Mousseline qui se retrouve avec une combinaison on ne peut moins saillante. Et puis voilà, du coup, il t'envoie à la recherche de la vilaine sorcière qui en est responsable à travers les contrées maudites. Donc ça c'est assez sympa parce que voilà, clairement tu comprends que le scénario c'est un prétexte, un super prétexte rigolo quoi.
Et alors c'est quoi la principale caractéristique, parce que ça reste un Zelda on va dire classique avec juste une une notion de coopératif, mais est-ce qu'il y a une feature en particulier qui apparaît avec celui-ci? Parce qu'on se rappelle
feature.
Par exemple.
Feature.
Ouais, j'avais pas d'autres mots qui venaient.
Une fonctionnalité.
J'avais pas d'autres
fonctionnalités.
Voilà. Parce qu'on voit par exemple pour Link Between Worlds, c'était le fait de pouvoir aller sur les murs qui faisait que.
C'est génial.
Le Zelda était à nouveau. Était vraiment génial. Là, dans celui-ci, est-ce qu'il y a une fonctionnalité en particulier? Je crois qu'il y a une histoire de costume, non?
Bah déjà, il y a le totem. Hein.
Le totem.
La principale mécanique du jeu, c'est le totem. Mm-hmm. C'est le fait de pouvoir transporter soit les pantins,
ouais.
Soit les autres Link sur sa tête. Donc, on peut faire une petite tour
comme empiler.
Ça.
Oui. C'est ça.
Oui.
D'accord.
Donc, en fait, on est à 3, hein, mm-hmm. Quelle que soit la situation. Et ça, c'est vraiment la principale fonctionnalité. Et c'est vrai qu'elle est vachement, elle est très très bien exploitée par les puzzles, mmh. De plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure. Et bon, ben voilà, je veux rien gâcher, mais tout à la fin, c'est vraiment très 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 utile contre le dernier boss. Mmh. Mais ouais, globalement. C'est, bah justement, je parlais d'un boss, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de situations et c'est vraiment la grosse déception où on se dit bon, ben là, c'est lent, c'est lourd, c'est pesant parce qu'il faut tout le temps changer de personnage, il faut passer d'un pantin et d'un Link à l'autre en fait, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas super bien. Mm-hmm. Et quand on est à plusieurs en ligne, comme on n'arrive pas toujours à indiquer ce que les autres doivent faire, surtout quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'il y a très peu d'émoticônes, on va dire, pour leur transmettre des informations.
Ah oui, il n'y a pas de voice
non,
de voice
y a
chat,
pas de voice
c'est
chat.
Que...
Non, on ne peut pas, il n'y a pas de, ouais, de
communication vocale. Ah, donc du coup, en ligne, c'est peut-être plus laborieux qu'en local.
Bah, c'est pour ça, c'est vraiment, ouais. En local, il est très... Là, c'est vraiment au niveau de son potentiel, c'est là qu'il s'exprime. Hein. Mmh. Parce que non seulement bah là on est tous ensemble, on peut rigoler ensemble, et puis c'est vrai que dès l'instant où on veut se plonger dans les défis spéciaux, mmh. C'est quand on refait les donjons en fait avec des objectifs bien précis, avec peu de cœur, avec s'en servir de son épée, avec un temps limité, enfin il y a plein de défis assez variés, mmh. Et bah c'est là que ça devient intéressant justement en réseau local, parce qu'on peut mettre on peut exécuter ces stratégies qu'il faut élaborer, donc ce qu'on peut pas vraiment faire en ligne, hein, à moins d'avoir vraiment des gars qu'on connaît et puis que tout le monde sache quelle est sa mission, quoi.
D'accord, très bien. Et si tu devais retenir une chose quand même vraiment positive de cet épisode, quelle serait-elle?
Bah, c'est-à-dire qu'il prolonge tout ce qu'il y avait de bon dans Link Between Worlds, hein, que ce soit le moteur graphique, que ce soit le gameplay, cette gestion de la 3D autostéréoscopique qui est quand même bien exploitée aussi par les énigmes. Mm-hmm. Mais c'est vrai que tout à l'heure tu disais c'est un Zelda, pour moi c'est un prolongement des Zelda multijoueurs, donc des Four Swords. Pour moi c'est vraiment quelque chose à part.
Ouais.
Et par rapport au précédent, et notamment à Four Swords Adventures sur GameCube, mm-hmm. Il est un cran en dessous parce que il fonctionne moins bien d'une manière générale, et surtout si tu sors du cadre du réseau local.
D'accord. Très bien, donc c'est un 3, c'est juste un bon jeu. Donc...
Non, j'ai mis 3,5. J'ai mis
3,5. Ah, donc oui, c'est
un bon
5 jeu.
Sur 5, je te dis 3 sur 3, quoi.
Ouais.
Voilà. D'accord. Mais 3,5, mais c'est vrai qu'il est. Il est passé pas loin du 3, et c'est parce que justement il y avait ces défis qui permettaient de revisiter les niveaux de manière vraiment intéressante, que j'ai pensé qu'il méritait ce petit demi-point supplémentaire.
D'accord, donc finalement en attendant...
Et les costumes, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
oui.
Mais justement parce que c'est grâce à ces costumes que tu peux mettre en place ces stratégies. Quand tu peux nager dans la lave par exemple, c'est super pratique avec un costume de Goron, tu vois, entre autres.
D'accord. Donc au final, en attendant Zelda Wii U, il fait pas vraiment le job qu'on lui demande, quoi.
Non, la mission n'est pas totalement accomplie, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon.
C'est un peu triste, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait des bonnes choses. Mmh. Il partait bien, vraiment il partait bien, avec tout son pitch et ainsi de suite.
Ouais.
Mais au final, on est un petit peu frustré, quoi.
D'accord. Donc c'est un peu triste d'avoir un Zelda bon quand on est habitué à des Zelda toujours.
Je suis super déçu là.
Excellent. Et là tu viens de plomber Carole d'un coup, elle est Elle est abattue. Alors, complètement.
Je suis désolé.
Surtout que Julien est arrivé hier soir avec le petit Zelda, quoi. Et ouais. J'étais toute contente. Il m'avait mis un petit mot et tout. J'étais ravie. Je l'ai posté sur mes réseaux en disant oh, c'est cool. Ben non, c'est un cadeau empoisonné en fait, hein, puisqu'il va totalement tuer l'amour que j'ai pour la série.
Il est bon, il est pas très bon, il est juste bon. Voilà, c'est juste que c'est.
Parce qu'on est tellement habitué à du très bon avec Zelda.
Est-ce que ça va pas être le premier Zelda à avoir une si mauvaise, entre guillemets, note?
Bah,
franchement, quand tu regardes les métacritiques de tous les Zelda, je pense que.
Moi, j'avais pas aimé Skyward Sword.
Parce que Skyward non plus, je l'ai pas aimé, c'est vrai.
Ouais, mais Skyward, il a divisé plus qu'il a. Parce que là, j'ai l'impression que les gens sont assez unanimes à son sujet. Donc, ça serait marrant de regarder ça.
Bon. En tout cas, merci Yann pour ton avis éclairé sur Zelda Triforce Heroes. On se retrouve bientôt sur Gameblog. À bientôt.
Salut Yann, à bientôt.
Hop, attention. Coupure, voilà, vous avez entendu la petite coupure Skype parce que effectivement c'était un duplex en direct de la contrée lointaine de Yann qui habite très loin à l'est d'ici et qu'on remercie encore une fois. Maintenant, deuxième jeu de cette semaine, on pouvait se le faire livrer en calèche, rendez-vous compte, vendredi sur Paris grâce à la société Uber. Truc de fou, un mec, un cascadeur déguisé en héros de Assassin's Creed Syndicate arrivé, vous faisiez trois galipettes avec votre application et hop, il vous tendait le jeu. Truc de ouf.
Formidable.
Ouais, alors, formidable. Moi, c'est vraiment une idée de génie, je trouve. Ouais, j'aurais dû la faire l'année dernière pour Unity, hein, mais bon.
Alors,
Assassin's Creed Syndicate, mon petit Julot, tu as commencé à y jouer.
Alors, moi, on me l'a pas livré en calèche, hein, j'ai dû aller l'acheter avec les deniers de Gameblog en galérant dans le métro. Ouais,
voilà.
C'est moins fun.
Donc, ce qui explique, je le répète ici aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous avez vu le test d'Assassin's Creed Syndicate paraître un peu partout à la levée de l'embargo, hein, qui était donc jeudi dernier. À midi ou une heure de l'après-midi, je sais plus. Et que nous, sur Gameblog, on ne vous le propose pas tout de suite. On vous a fait un live dès qu'on a pu avoir le jeu. Mais voilà, on n'est plus dans les petits papiers d'Ubisoft, comme je pense la majorité d'entre vous le savent déjà, qui ne nous envoient plus les jeux, ne nous invitent plus aux événements liés à Assassin's Creed, notamment. Donc voilà, ceci explique cela. Donc depuis hier, je m'efforce de jouer le plus possible, hein, mais voilà, avec mon emploi du temps aussi, ça ne permet pas d'aller aussi vite que je voudrais. Donc, ce que je peux vous livrer aujourd'hui, dis-nous, c'est plus des grosses premières impressions qu'un
et
test.
Quelles sont-elles ces grosses premières impressions ? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif ?
Ah, plutôt positif. Je fais pas partie des gens qui ont massacré Unity. Et à vrai dire, un an après, je suis assez fier de ne pas être tombé dans ce piège parce que c'était un épisode vraiment. Je crois que c'est l'un de mes préférés, hein, Unity, dans la saga, derrière le triptyque d'Ezio, hein, donc Assassin's Creed 2, Brotherhood, Brotherhood et Révélation, qui pour moi sont inatteignables, hein, par tous les autres épisodes, quelles qu'en soient les nouveautés et les inspirations.
Et les features.
Et les features. Voilà.
Des fois, j'ai les mots anglais qui viennent en premier.
Donc voilà, premières impressions sur ce Syndicate. Alors d'abord, le monde ouvert. Donc cette fois on est à Londres, 1868, époque de la grande révolution industrielle. Voilà, donc les chemins de fer, les
usines,
des
mecs à moustache avec des bretelles.
Voilà, des gangs dans les rues, des enfants qui travaillent dans les usines.
Normal.
La lutte sociale qui commence à s'organiser, etc.
Ah, moins normal.
Et donc des bâtiments d'un Londres fidèlement retranscrit. Franchement, c'est magnifique. Alors contrairement à Unity, il y a des passages. On va dire c'est assez irrégulier au niveau de la réalisation. Autant il y a des passages véritablement magnifiques, autant d'autres sont pas forcément sidérants.
C'est les modélisations des personnages quand je te voyais jouer qui m'ont parfois choqué.
Parce que ça n'a que très peu évolué depuis. Ouais.
Non, mais il y a certains vraiment, ils étaient hideux.
Ouais.
Non, alors le gros chauve que tu me dis avoir croisé des dizaines de fois.
Voilà, c'est surtout ça qui me choque, moi, c'est que les doublons de personnages, hein, c'est comme s'ils avaient fait, je sais pas, à peine une dizaine de PNJ différents que tu revoyais à l'infini dans la rue. C'est assez chiant, hein, parce que effectivement le gros chauve là, la brute comme on appelle dans le jeu, je crois, on le croise à tirer l'arigot tout le temps à tous les coins de rue. Cela dit, il y a un vrai travail sur l'ambiance. Il y a une super ambiance, franchement. Autant donc par cette réalisation et cette modélisation fidèle des rues de Londres à cette époque, autant par les bruitages et les musiques qui sont formidable. Franchement, la BO de Syndicate s'annonce assez géniale, avec beaucoup d'instruments à cordes, de violon, violoncelle, etc., qui viennent assez doucement comme ça s'incruster en fond sonore quand tu, selon les situations, quand tu es en train de t'infiltrer, quand tu te bats, etc. Donc gros travail et grosse ambiance. Franchement, ça c'est ce qui me plaît le plus dans Syndicate. Alors après, il y a différentes nouveautés, vous l'avez pas loupé évidemment, il y a notamment ces moyens de locomotion, les calèches, et puis ce moyen de locomotion finalement aussi qui est le grappin. Alors j'ai coutume de dire que voilà, quand il y a un grappin, forcément le jeu gagne un petit peu en intérêt. Alors pour parler de ces deux choses précises, justement c'est là que la déception peut pointer déjà. D'abord, les phases en calèche sont très peu jouables et surtout très peu crédibles. C'est assez ridicule à regarder, dans le sens où quand t'es en calèche, alors c'est GTA, hein. Donc tu peux choper n'importe quelle calèche, tu montes dedans et quand
en
tu croises,
voilà,
et quand tu
chauffeur,
croises un pylône, ton cheval en adamantium écrase les pylônes et tout ce qu'il y a devant lui, il y a tout qui jarte. Donc ça, l'immersion en prend un petit coup et c'est.
Alors que quand t'es en train, tu prends un arbre et il s'arrête, non? Ça va?
Ah non, en train, a priori, il n'y a pas d'arbre sur les rails, quoi. J'en ai pas vu encore, en tout cas. non, mais enfin, je veux dire, ces phases en calèche sont assez. Alors, déjà, peu jouables. Hein, peu jouables. Et en plus, donc, tu as des séquences de fuite, etc., où tu as d'autres calèches qui viennent à côté et tu as un bouton qui te permet de donner des coups d'épaule de calèche, quoi. Ouais. Et donc, la calèche se téléporte de droite à gauche, comme ça, de manière extrêmement violente. C'est assez bizarre et c'est assez mal foutu. Donc, je suis pas ultra convaincu par les phases en calèche.
D'accord.
Voilà. Le grappin. Très sympa, ça permet effectivement, bah, comme par rapport à Unity où Paris était encore un peu sur son plan médiéval, donc les immeubles très proches les uns des autres, etc. À Londres, il y a certaines grosses artères déjà qui éloignent très nettement les immeubles de chaque côté. Donc tu peux utiliser ton grappin non seulement pour grimper très vite en haut d'un immeuble, mais tu peux aussi l'utiliser pour faire la tyrolienne d'un immeuble à l'autre.
D'accord,
y compris
vraiment,
donc sur ces grandes artères, ça te permet de pas toucher le sol et de continuer ton.
Donc ils ont bien pillé Batman en fait. Finalement.
Exactement. Sauf que là encore, alors là, je comprends pas, ça fonctionne très mal. C'est-à-dire que en gros. Bah comme dans Batman, je crois, tu regardes à un endroit et t'as un petit signe.
T'as le rebord et normalement
voilà.
Il se fixe automatiquement.
Et le rebord, tu vois le petit logo du grappin qui t'indique que tu peux appuyer sur L1 et à ce moment-là, paf, il envoie le grappin. Sauf que autant parfois t'as un immeuble qui est tout à fait de l'autre côté du boulevard, très loin, super loin, et là tu vas tout de suite agripper ton grappin. Autant d'autres fois il y a un truc juste au-dessus de toi, tu peux appuyer comme un malade et le logo arrive pas et le grappin se lance pas. Et t'as d'autres moments où le logo n'apparaît pas mais où le grappin peut partir un peu au hasard, pas exactement là où tu le voudrais, etc. Donc ils se sont un peu ratés, je trouve, sur ce coup-là. Alors ça apporte plein de choses sympas, hein, parce que t'as un vrai sentiment de surpuissance dans tes phases d'infiltration, ou quand tu arrives dans un endroit très fréquenté par les ennemis, tu arrives par les toits, et donc tu peux aller très rapidement d'une position à une autre sans avoir à redescendre ou à prendre des chemins un peu compliqués et un peu longs, parce que ça donne aussi beaucoup de rapidité au gameplay du coup.
Mais niveau infiltration,
je suis un peu déçu parce que au stade où j'en suis, en tout cas, j'ai pas retrouvé. Ce que je disais dans le test d'Assassin, c'est qu'ils avaient vraiment fait un retour aux racines au niveau de l'infiltration de Unity, pardon. Retour aux racines avec beaucoup d'infiltration et beaucoup d'idées sur l'infiltration qui te permettaient de t'approcher de ton objectif, de lui tourner autour, de trouver plusieurs points d'approche, etc. Ils avaient multiplié les façons d'assassiner, les points d'entrée dans une zone étaient aussi divers et variés, etc. Là, j'ai retrouvé des missions assez simpliste dans ce sens-là où j'ai pas trouvé mille façons de les aborder, etc. Donc, moi je suis toujours au début du jeu, hein, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal frappé parce que je trouve que autant ils ont repris plein d'idées de Unity, donc les missions genre les enquêtes, t'as toujours aussi plaisir à retrouver des personnages historiques de l'époque, donc ici t'as Darwin, t'as Dickens, apparemment il y a Karl Marx aussi, donc ça va être intéressant. Ouais, toujours cet aspect historique qui est là et qui est très sympa et tout, mais au niveau du gameplay, un petit peu déçu par ce côté infiltration qui me semble
tu veux dire
un peu pété quoi. Déjà, je mets de côté ma question.
Vas-y, je
t'écoute. Tu avais terminé, c'est parfait. Justement, au niveau, on parlait des personnages historiques. Il y a toujours eu pas mal d'histoires d'anachronismes dans les assassins. Est-ce que là, tu en as noté pour l'instant?
Écoute, je suis pas un spécialiste de cette période et de ces voilà, je saurais pas vraiment répondre à ta question.
Sachant que c'est quelque chose qui est simulé, il y en a toujours de toute façon à chaque fois, mais des fois c'est des trucs qui sont simulés.
C'est ce que je dis, ce sont pas des cours d'histoire, mais
Abstergo ou je sais pas quoi. Enfin, y a des bugs,
ils ont toujours des petites pirouettes pour justifier des anachronismes, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque terriblement. Dans Unity, j'ai été choqué par rien de spécial, contrairement à Mélenchon qui trouvait que la place de Robespierre était un petit peu exagéré.
Différence entre les deux personnages.
Très romancé.
Un des deux personnages.
Ah oui, alors donc l'autre point de satisfaction, c'est ce duo. Alors bon. C'est à la fois un point de satisfaction et puis une petite déception quand tu commences le jeu, parce qu'ils sont directement assassins, donc tu les vois pas accéder, etc. L'intro du jeu est un peu ratée, je trouve, dans le sens où elle est sympa, si tu veux, mais elle est pas forte, comme ont pu l'être hein, d'autres intros d'Assassin's Creed, je pense quasiment à tous les épisodes, en fait, hein, je suis en train de me dire, avec toujours une intro bien particulière, celle de Unity, par exemple, où tu incarnais le personnage lorsqu'il était gamin, marchant dans les couloirs de Versailles, assistant à l'assassinat de quelqu'un, faisant la connaissance d'une jeune fille qui deviendra plus tard son amoureuse, parce que c'était une histoire d'amour, hein, Unity, un peu voilà, entre deux personnes que tout éloignait. Et donc t'avais ces intros fortes comme ça. Là elle est pas très forte, ces personnages là ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, tu t'attaches pas immédiatement. Par contre, ce qui est tout de même là, au fil de ma progression, ils ont vraiment deux personnalités totalement différentes. Donc en fait, c'est deux orphelins. Pourquoi ils sont déjà assassins? Parce que leur père était assassin, mais leur père est mort peu avant le début du jeu. Et en gros, t'as la fille Evie qui suivait vraiment très sagement, dans tous les sens du terme, les préceptes que lui avait inculqué son père, assassin, suivant le credo, etc. Et le garçon, comment s'appelle-t-il, Jacob, qui lui est plutôt un dur à cuire, qui aime pas obéir, qui était plutôt en...
Qui est au pub à 17h.
Voilà, c'est ça.
Direct,
donc ça se ressent aussi dans leur gameplay. Après, tu peux faire évoluer tes personnages comme tu veux, mais en gros, moi, je suis en train de les faire évoluer par rapport à leur personnalité en rajoutant beaucoup de fonctionnalités d'infiltration à Evie, et beaucoup plus de brutalité, de maniement des armes, etc. À Jacob.
Ça, c'est cool parce que t'as deux manières de jouer. Alors,
oui, et alors ce qui est bien, c'est que vraiment dans le scénario, tu peux switcher d'un personnage à l'autre quand tu veux, mais dans le scénario, il y a toujours des dualités et des dialogues entre les deux qui sont assez marrants, et qui fait que tu t'attaches progressivement à eux, et qui sont finalement plutôt bien écrits, ces personnages. C'est en tout cas la sensation sur laquelle je reste là, au moment où j'en suis dans le jeu. Donc voilà, je suis un peu partagé pour le moment. Je crois que je vais
continuer déjà.
Bah évidemment, je vais continuer, mais je crois que j'ai a priori un peu moins l'aimer que Unity.
T'as fait les libérations de quartier.
Oui, alors il y a effectivement tout un gameplay sur la libération de quartier et les guerres de gang. Donc en gros, il y a chacun des personnages a des missions dans le jeu. Donc il y en a Evie qui veut plus récupérer des fragments d'Eden, etc., pour comprendre les dessous du problème, pourquoi est-ce que Londres est tenue à ce point par les Templiers, etc. Donc elle veut trouver des artefacts, etc.
Alors que Jacob, lui, il veut
zigouiller tous les Templiers. Et donc t'as des missions zigouillage de Templiers, des missions plus de recherche, etc. Et à côté de ça, tu as des missions où tu rends service à des gens autour de toi et où tu augmentes ton influence sur le quartier et où tu libères les zones comme ça. Ça finit avec des bastons de gang et tout. Parce qu'en fait, évidemment, Jacob, lui, ce qu'il veut, il arrive à Londres parce qu'ils sont tous les deux en dehors de Londres au départ. Il arrive là et dit oh, je veux mon gang, je veux
déglinguer les.
Voilà, c'est le bad boy.
C'est le hooligan, quoi.
Franchement.
Et quand tu contrôles un des personnages, que fait l'autre ? Il est avec toi, il est ailleurs.
Non, il est pas avec
évolue.
Toi. Il arrive qu'il soit avec toi. D'accord. Tu commences des missions, par exemple, t'as une mission où tu commences avec Evie et elle demande à son frère d'aller zigouiller les mecs qui sont sur les toits pour qu'elle puisse s'infiltrer plus facilement.
Ça peut être que l'IA qui l'incarne, évidemment.
Ah là, c'est que l'IA.
D'accord,
dans ce cas-là.
Multijoueur.
Et sinon, tu choisis le personnage avec lequel tu fais tes missions,
d'accord,
sachant qu'il y a des missions que tu peux faire avec les deux et des missions que tu
d'accord
fais avec l'un.
Et
ou
justement,
l'autre.
L'IA est bien calibrée, il y a pas de problème.
Alors honnêtement, haters gonna hate, c'est-à-dire c'est du assassin dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que le système est le même, comment dire, l'IA, que te dire, à part que c'est la même depuis.
Égale à elle-même, d'accord.
Voilà, depuis
donc
toujours.
Donc c'est à la queue pour les combats, toujours.
Ouais, il y a toujours des réactions un peu bizarres que tu assimiles à des bugs, quoi, avec des mecs qui le pathfinding est pas bon, donc ils montent sur une caisse et puis ils se téléportent à côté. Il y a une scie, des fois, qui vole dans les airs, etc. Mais moi, j'ai pas noté ni plus ni moins de bugs que ce que j'avais noté avec Unity en y jouant sur Xbox One à l'époque.
Mais c'est que t'en avais pas eu beaucoup quand tu jouais.
Bah, sur Xbox One, en fait, il y en avait peu. Hein.
Ouais. Moi, j'en avais eu aucun non plus. Hein.
Ouais. On en avait vu beaucoup, après on avait même fait un top dessus.
Non, mais après, voilà. Je pense que les gens qui veulent faire des gifs animés, des compiles de bugs,
ah bah,
ils vont s'éclater. Voilà. Après, moi, je note quand même la. Je suis assez choqué par la. Comment dire, la prise de position des médias américains sur les deux jeux. Hein. Je parle de Unity et de Syndicate. Moi, il m'apparaît moins bon que le précédent. Chez les Américains, il s'est pris des. Je parle pas des sites français, des magazines français qui ont plutôt bien accueilli Unity, mais il s'est fait déglinguer par la presse outre-Atlantique.
D'accord.
Et là, je vois des notes popées sur Assassin's Creed Syndicate qui me font poser des questions. Quoi. Je comprends pas trop.
Bah là, en France, ouais, on a eu déjà 2-3 notes qui sont un peu alarmantes.
Un peu salées. Ouais.
Il y a des trucs très sympas, hein. Là on voit les trains à l'image, donc la base des deux héros c'est un train, donc ils ont, ils ont leur
mortel.
Base secrète dans un train qui tourne dans Londres, hein, que tu peux récupérer comme ça, c'est de là que tu gères tes gangs, tu gères tes affaires, les missions, etc. Donc, ça c'est assez rigolo, mais surtout les trains, bah, tu peux monter dessus, il y a des combats sur les trains qui sont assez sympas, quand tu te bats contre quelqu'un sur un train tu peux l'éjecter, voilà, comme tu viens de le voir à l'image. Il y a des phases en calèche qui donc n'ont pas beaucoup plus. Ah oui, et puis alors il y a une nouveauté de gameplay ils usent et semble-t-il abusent, qui est pourtant pas ultra intéressante et un peu aussi chelou.
C'est
l'enlèvement. Ouais. Alors l'enlèvement c'est quoi? C'est que tu peux aller sur une cible et tu vas arriver dans son dos et là tu peux appuyer sur rond et à ce moment-là tu lui passes, tu sais, le bras derrière le dos en le menaçant de ta lame d'assassin et tu lui dis bouge pas et tu diriges cette personne en fait.
D'accord.
Et quand tu fais ça, alors il y a, et que tu as donc un garde dans tes mains, et ben tu peux traverser tout un niveau rempli de gardes et il te repère plus.
D'accord.
C'est bizarre quand même.
D'accord.
C'est chelou. Ouais. C'est-à-dire que tu arriverais dans ce niveau en marchant tout seul, il dirait ah, il est là, il te sauterait dessus, etc. Quand tu arrives avec ce mec
là, il croit que. Ah oui, non, parce que tu te fais escorter en fait.
Bah oui, mais enfin, c'est toi qui escortes, t'es derrière le mec.
Bah, ouais, c'est ça.
Le bras au mec. Et...
Voilà.
Ah, alors... Parce que moi, j'avais fait une séquence à la Gamescom où c'était moi qui étais prisonnier pour aller buter le Titan, je crois, un truc comme
ça. Ah oui, oui, bah, c'est possible, ça je l'ai pas fait. Ah bah tiens, c'est... oui, j'en suis pas loin, je crois, effectivement. Mais bon, voilà, je trouvais ça assez bizarre comme idée. Si ça avait pas été utilisé trop, je dis pas, mais là, depuis quelques heures, là, j'ai l'impression que dans toutes les missions, il faut faire ça, etc. Donc. C'est un épisode qui a plein de qualités, mais qui est un peu maladroit, je trouve, en fait.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Pour l'instant, attendez patiemment mon test, hein, si vous voulez mon avis. Voilà, sinon vous avez des tests à droite à gauche.
De customisation, acheter des armes, etc.
Bien sûr. Ouais, ouais. Tu peux évidemment acheter avec de l'argent réel
des points
Elix. Les points Elix qui te permettent d'acheter du matériel, donc des matières premières, qui te servent à fabriquer de nouvelles armes, à les améliorer, etc.
Et tu peux te faire ta petite armée ou pas encore comme,
Oui, tu peux gérer ton gang. Donc c'est assez sympa.
Mais il n'y a plus de coop. Hein, ça,
alors voilà, et alors dernier truc, effectivement, merci de m'y faire penser parce que c'est assez important. Il y a zéro online dans le jeu, que ce soit un mode compétitif. Vous vous souvenez des modes compétitifs d'Assassin qui étaient géniaux. Donc ça a disparu depuis longtemps. Dans Unity, ils avaient rajouté un mode coop qui était franchement cool, où tu pouvais aller à plusieurs assassins.
C'était la feature qui était présentée.
C'était
à
la feature
qui
de dingue.
Qui faisait plus kiffer de voir qu'on peut jouer à 4.
Et puis surtout là, le gameplay s'y prêtait. Ce qui aurait été génial, c'est de pouvoir incarner ces deux jumeaux. Dans des missions.
C'est ça, ça aurait été,
super cool.
Ah ouais.
Et voilà.
Ça s'y prêtait totalement.
Alors j'imagine que l'excuse c'est bon, on a voulu après le scandale d'Assassin's Creed Unity, qui pour moi donc est un meilleur épisode. Bon, on a voulu se concentrer sur le solo, éviter les bugs.
Non, mais
etc.
C'est comme pour le 60 FPS et le 30 FPS.
Voilà.
C'est... Non, mais
ou c'est
mieux.
Comme les femmes assassins, c'est qu'on pouvait pas modéliser à l'époque.
Voilà. C'est
non,
mieux,
je pense que c'est vraiment dommage et que mine de rien, c'est un vrai défaut. Quoi. C'est le premier Assassin's Creed depuis.
De Brotherhood,
ouais, qui n'a aucun élément multijoueur. Voilà. Bon. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà ce que je peux vous dire à peu près jusqu'à maintenant.
Une dernière question.
Ah, vas-y.
Par rapport à la gestion de la difficulté, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme dans Unity, tu as des portions de la ville qui sont
plus difficiles? En fait, quand tu, avant de commencer une mission, on te conseille niveau 2, on te conseille d'être niveau 3, etc. Parce que les ennemis qui vont être là vont être de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, etc. Et en fait, ils ont revu le système de combat qu'ils avaient déjà revu dans Assassin's Creed Unity, et j'avais bien aimé leur révision de Unity. Et là c'est assez chelou, t'as un peu des QTE pour éviter les balles qu'on t'envoie, t'as beaucoup de temps pour contrer, etc. Je trouve qu'il a été extrêmement simplifié
et
rendu pas très intéressant. Alors après c'est sûr que les animations sont super, tu fais des enchaînements qui déchirent selon les armes, franchement c'est hyper violent, hyper rapide et violent quoi. Mais par contre ce qui est complètement con, c'est que quand tu te retrouves contre un adversaire de niveau supérieur au tien, donc par exemple t'es niveau 2 et tu te retrouves contre un adversaire de niveau 4, bah il va pas être plus intelligent, plus difficile à battre, etc. Il va juste être plus long.
Ouais, plus long.
C'est juste relou. Okay. Et donc des fois tu te bastonnes pendant 3-4 minutes de suite sur un mec, aller foutre des coups de pied, des coups de poing en pleine gueule pendant des heures avant de pouvoir lui mettre un coup final à la lame secrète ou avec cette nouvelle arme que j'adore, la canne lame, la petite canne.
T'as envie d'en avoir une à vous.
Franchement, ouais. Je trouve ça serait pas mal la classe.
Bon, en tout cas, en attendant le test, donc t'es plutôt partagé.
Ouais, je trouve que c'est un épisode assez maladroit qui est pas dénué de.
Ça a l'air inégal, ouais.
Ouais, qui est pas dénué de qualité, mais qui est assez inégal. Ouais.
D'accord. Bon, de toute façon, on aura une fuite dans pas très longtemps du prochain épisode qui sortira l'année prochaine, je suppose.
Oui,
C'est un peu la règle.
Les années 40, je pense qu'on va encore avancer dans le temps.
C'est vrai, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça pourrait être quoi la suite
Les années 40,
à quelle époque?
La guerre, moi.
Toi, tu penses à la guerre?
J'adorerais tellement le Japon féodal, mais bon.
Non, ce sera pas ça, je pense pas.
Le Japon féodal, pour moi, oui, d'accord.
Mais effectivement, ça aurait été ça. Je partage l'avis de Julo.
Les années 40
ouais, plutôt.
D'accord,
la guerre.
Je verrais bien les années folles, perso, mais après, c'est.
Donc, l'entre-deux-guerres.
Ouais.
Les années 20, ça pourrait être pas mal.
Ouais.
Je pense qu'il y aurait moyen de danser le Charleston et tout.
Ce serait pas mal, un retour à Paris.
Ouais, pourquoi pas.
Capitale du vice et de.
Tu rencontreras Josephine Baker. Ça pourrait être rigolo. Ouais. Bon, enfin bon, on verra.
Et il y a aussi, il y a d'autres. On sait qu'il y a d'autres moments de l'histoire qui doivent être abordés parce qu'on sait qu'il y a des assassins à ces moments-là importants.
L'Égypte, etc.
Voilà, il y a l'Égypte, il y a le Japon féodal, il y a la Mongolie des grands khans. Voilà, il y a plein de trucs à explorer. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière dans le temps parce que je trouve que ça perd aussi un petit peu
avance,
son charme.
Ça donne un cachet, effectivement.
Parce qu'on a envie de découvrir des choses qui sont plus loin de nous, finalement.
Ouais. Et puis moi, ce que j'aime pour un fan de la série, c'est qu'on fasse des liens avec les autres épisodes, les autres assassins, etc. Et c'est pour ça que...
ils se sont perdus depuis les révélations.
Mais révélations, c'était extraordinaire parce qu'ils s'étaient laissé le temps avec un seul personnage, Ezio, qui avait traversé vraiment toutes les époques de sa vie en 3 épisodes, avec la jeunesse un peu fougueuse, etc. Suivi de un peu de maturité, puis la vengeance qui s'estompe, et puis le questionnement sur les fondements des assassins. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il comprend qu'il doit transmettre un message, mais il sait pas. Et puis ça finit où il retrouve les traces d'Altaïr. Et à ce moment-là, il est mélangé avec comment il s'appelle, Desmond, j'allais dire Edmond. Desmond, on les voit plus ou moins tous les trois réunis dans un endroit avant la mort de tout le monde. Enfin, il s'est passé des moments géniaux, trans-jeu, qu'on retrouve pas parce que la méta-histoire a totalement disparu. Et à ce sujet, elle est un petit peu plus présente ici que dans Unity.
Mmh. Oui, parce que
mais
Unity,
elle reste toujours accessoire.
Pareil,
en fait.
Ouais. C'était très accessoire, effectivement, dans Unity. Ouais.
Donc,
moi, ça me dérangeait pas.
Moi, je me suis habitué maintenant, mais quelque part, pour moi, aucun assassin n'arrivera au niveau des précédents si on ne met pas un peu d'éléments du présent. Quoi. Un peu
très
plus,
bien.
Quoi. Un peu plus. Pas plus en nombre. Enfin, plus en nombre, il le faut, ce qui a l'air d'être le cas là, mais aussi plus en intérêt, quoi, qu'on apprenne des choses autres qu'en lisant l'encyclopédie interne au jeu, qui se met à jour petit à petit. Bref, voilà où j'en suis.
Vivement le test, en tout cas, on a hâte de lire ça. Merci, Julo. On va passer maintenant à un jeu qui, lui, va sortir le même jour que ton anniversaire, Carole.
Le 30 octobre, le c'est pas plutôt le 31 ?
Non, c'est le 30 octobre qu'il sort. Ah, c'est Project Zero, la prêtresse des eaux noires, qui sort sur Wii U le 30 octobre.
Ah, mais du coup, t'es pas balance, t'es scorpion, toi.
Eh oui, c'est une scorpion. Elle a mal choisi son jour, malheureusement.
Mais malheureusement. Ouais. Donc, que tu veux que je te dise, on peut pas être parfait.
Project Zero, on est, c'est le numéro combien ? Le numéro 5 ?
C'est le 5.
D'accord.
Absolument. C'est
et
le
alors,
5.
Qu'est-ce qu'il présente comme particularité, ce cinquième épisode de cette série où on incarne généralement une jeune japonaise qui va dans des maisons hantées avec son appareil photo
pour ses larmes ?
Absolument, mais ouais. c'est toujours un petit peu pareil, sauf que dans cet épisode, alors ça va pas révolutionner le genre.
Première question, est-ce que tu t'es chié dessus?
Non, parce que je suis.
Alors là, voilà,
t'es trop habitué.
Je pense que je suis trop habitué à ce genre de
Alors que Project Zero, c'est quand même.
Ouais, parce que moi, même habitué au genre, Project Zero, ça.
Ah, moi, j'ai
toujours
des souvenirs de Julo sur les deux premiers où il disait non, je veux plus continuer.
Les deux premiers sont fantastiques. D'ailleurs, j'ai vraiment un amour profond pour l'épisode 2 qui pour moi reste le meilleur.
Moi, c'est le premier, moi.
Parce
que c'était la première fois.
De toute façon, voilà.
Souvent, j'aime les premiers. Dans le Seigneur des Anneaux, je préfère le premier livre.
C'est un peu ça, mais le 1
j'adore la mise en place.
Moi, j'ai préféré le 2, mais le 1 est fantastique. Et c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est ce que je soulignais dans le test. On a un vrai Project Zero, c'est-à-dire que je me suis retrouvée propulsée quelques années en arrière. C'est du vrai Project Zero, autant dans l'ambiance que dans les mécaniques de jeu, dans les bruitages, dans l'ambiance. C'est un vrai Project Zero.
Tous les épisodes ont toujours été
très égal. Voilà. Mais j'avais peur.
Aucun ne s'est vraiment éloigné du vrai Project Zero.
Exactement. Comme tu dis. Sauf que j'avais un petit peu peur avec cet épisode de Wii U, avec l'utilisation du gamepad. Voilà, que ça s'éloigne un petit peu.
C'est très joli, j'ai l'impression.
Voilà. C'est très joli. Alors, c'est pas la claque graphique internationale, mais c'est très joli. Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'utilisation du gamepad qui va apporter une véritable immersion, qui va ajouter à l'angoisse.
Ça marche comment?
Puisqu'effectivement, tu t'en sers, c'est ton appareil photo, c'est la caméra obscure.
Ah, voilà. Et donc, elle fonctionne avec le gyroscope, tu peux regarder autour de toi comme ça?
Tout à fait, exactement.
Et c'est arrivé de te retrouver avec des fantômes derrière toi, justement?
Exactement, mais là, alors, c'est là que, premier point noir, c'est un petit peu mal fichu, parce que, effectivement, quand tu as la caméra en main, tu peux pas te déplacer comme tu veux, donc les ennemis se rapprochent assez vite, ils disparaissent, ils réapparaissent, ce sont des fantômes, donc ils peuvent apparaître très proches de toi. Tu as l'appareil en main, alors tu essaies de te tourner un peu dans tous les sens, tu n'arrives pas à les choper, donc il faut désarmer en fait, il faut lâcher ta caméra obscure pour pouvoir t'éloigner parce que tu peux pas trop bouger avec, réarmer l'appareil pour les prendre à nouveau en photo. Donc je trouve que c'est mal foutu. C'est mal fichu, il y a des mouvements de caméra qui sont un petit peu capricieux, un peu hasardeux. Donc ça, moyen, même si effectivement ça apporte à l'immersion, puisque
c'est mitigé, mais c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose?
C'est une bonne chose dans la mesure où tu vas stresser carrément, puisque... ils sont là, ils apparaissent, ils sont juste à côté de toi, t'arrives pas à bouger, t'arrives pas à courir avec ton appareil en main, donc c'est hyper, hyper stressant, effectivement c'est très immersif, et en même temps ça peut devenir un petit peu chiant. Après il y a un autre défaut, c'est assez inhérent au genre, puisque tous les Project Zero avaient un gameplay assez lent, sauf que là je trouve que c'est un petit peu plus lent encore.
Plus lent que d'habitude?
Je trouve que les contrôles ont vraiment un gros manque de réactivité, donc du coup t'avances à deux à l'heure. Les personnages ont une vraie lenteur, une vraie lourdeur, donc ça rajoute encore une fois à l'angoisse.
Je trouve ça bien, moi. Je trouve que c'est une des qualités.
Exactement.
Du jeu.
Ça colle à l'univers, et moi étant vraiment fan de survival, je trouve que ça colle parfaitement au style de jeu. T'as toujours la sensation que tu peux te faire choper, tu vas te baisser pour passer sous un obstacle, donc forcément le temps de te relever, ça va prendre 3 plombes. Quand tu dois ramasser un objet, tu vas te baisser, ça prend 3 plombes pareil, on dirait que t'as 60 piges, mais voilà, ça rajoute encore à l'angoisse. Tu sais que tu peux te faire choper à tout moment. Sauf que pour ceux qui sont un peu en mal de patience ou pour ceux qui veulent aller peut-être un petit peu plus vite, ça peut devenir un peu contrariant.
Toi,
un peu
ça
agaçant.
Gêné.
Ça m'a un peu agacée. Pourtant, encore une fois, je suis fan de la série. Moi, je les ai tous faits.
C'est un problème de rythme,
vraiment
finalement.
Je pense qu'il y a un vrai problème de rythme qui est beaucoup plus... qu'on ressent beaucoup plus que dans les épisodes précédents.
D'accord.
Donc voilà, ce serait vraiment les deux points négatifs que j'ai pu noter. Effectivement, tu vas également, comme tu vas gérer 3 personnages dans ce Project Zero, tu vas repasser souvent dans les mêmes endroits. Donc il y a un côté un petit peu répétitif dans les environnements, qui peut aussi un peu fatigué, un peu agacé.
D'accord. Niveau scénar.
En dehors de ça, voilà, niveau scénar, je trouve que c'est très intelligent. Mmh. Donc en fait, tu vas évoluer sur le mont Ikami, une montagne sacrée où l'eau elle-même est sacrée et considérée comme vraiment une déesse. Mmh. Et puis il va y avoir pas mal de sombres histoires de disparition, de suicide. Mmh. Et donc tu vas être poussé à tes trois
fantômes
à croiser
encore.
Exactement, des prêtresses qui ont été tuées dans les parages, et donc tu vas être amené avec tes trois personnages à aller mener l'enquête dans cette montagne. Donc tu vas donc incarner un romancier, Ren, donc qui fait des cauchemars récurrents. Il se voit sacrifier une jeune fille, donc il aimerait savoir si c'est un
toujours le même scénar, plus ou moins.
Bah, c'est toujours plus ou moins voilà les
il y a toujours un truc
choses,
de sacrifice.
Hein. Voilà, tu as Miyu qui est la fille de la du personnage d'un des protagonistes du premier épisode. Mmh. Et donc t'as trois personnages, je me souviens plus le nom du troisième personnage, qui vont donc mener l'enquête dans cette montagne. Et donc ça va être, je trouve que c'est assez intelligent, parce que même si ça se ressemble un peu, même si effectivement il n'y a rien de très novateur, ça ressemble aux anciens scénarios des épisodes précédents. Bah c'est bien fichu, ça donne envie, t'as envie de percer le mystère, de comprendre ce qui s'est passé, l'ambiance est juste
mortelle.
T'as mis
longtemps à aller au bout du coup.
Je crois que j'ai mis une dizaine d'heures, ouais, un truc comme ça, donc il y a d'habitude une vie très correcte. L'ambiance est vraiment excessivement bien. Pour moi, dans un survival, c'est le plus important, c'est vraiment l'ambiance. Encore une fois, je me suis pas j'ai pas eu
t'as
super
toujours ces
peur,
notes d'instruments japonais là
que tout bling, à fait exactement bling. C'est ce que je disais, les bruitages sont exceptionnels. Même quand tu rentres dans les menus, il y a toujours les mêmes bruitages.
Moi je me rappellerai toujours d'un truc dans le premier Project Zero. Je marchais dans cette maison hantée qui ressemblait plus à une maison hantée que là, parce que là on est plutôt
tu vas rentrer dans des maisons, dans un hôtel, dans une auberge.
Le premier c'était vraiment la vieille maison japonaise qui est fermé depuis depuis un demi-siècle. Et avec donc les shoji, les tatamis, les machins,
voilà,
et les toiles d'araignée partout.
Ouais.
Voilà, et donc ces portes coulissantes
dont
on voit la lumière quand il y a une source lumineuse derrière. Et je me rappellerai toujours, je marchais comme ça, c'est au début du jeu je crois.
Ouais.
C'est ma première frousse.
Là, t'as croisé le fantôme.
Non,
avec
et
la
d'un
tête,
seul coup en fait, t'as ce bruit de comment on appelle cet instrument japonais à cordes là,
genre comme le shamisen,
et la lumière qui s'allume derrière les shoji.
Ouais.
Oh, putain, j'ai fait un bond de 2 mètres sur ma chaise.
C'était assez efficace.
À chaque fois que je repense à Project Zero, je repense à cette première frousse intégrale.
T'as les voix d'enfants, et puis t'as ces corps
oui, et puis tu
qui tombent dans le vide.
Et puis c'est les codes du film d'horreur japonais qui sont très spécifiques quand même, avec les personnages qui apparaissent d'un seul coup derrière toi et qui te regardent avec le regard vide comme ça.
Ou à moitié décapité,
des frissons dans le
dos. Avance comme ça. Ce sont des codes, effectivement, ils sont très très bons. C'est ce que je soulignais dans le test. Les Japonais sont très bons pour ça. Et effectivement, ça se retrouve. On retrouve ces codes dans les jeux vidéo, notamment dans Project Zero. Les portes coulissantes, effectivement, qui vont s'ouvrir. Et tu es extrêmement près de la. Pour ceux qui connaissent pas trop la série, tu es extrêmement près des portes quand tu les ouvres. Et donc, tu t'attends toujours à voir un visage. Et d'ailleurs, je me souviens d'une scène dans le 2 qui m'avait profondément marqué, d'ailleurs, où tu ouvrais la porte et tu te retrouvais
tout de suite
avec un esprit. Donc, vraiment, l'ambiance top. Tu vas donc pouvoir effectivement prendre des photos avec donc le gamepad. Tu vas pouvoir t'en servir. Tu vas pouvoir jouer sur le gamepad. Hein. Mm-hmm. Tu peux jouer totalement sur la tablette ou sur la télé. Tu peux te servir.
Tu peux jouer que sur le gamepad.
Tu peux jouer sur la télé aussi. Oui, sur la
télé. Mais je pensais que le gamepad c'était l'appareil photo en permanence, moi en fait.
Mais
non.
C'est en permanence. Sauf que quand tu peux jouer sur l'écran et après tu t'en sers.
D'accord.
Voilà, tu t'en sers comme un appareil ou sur la télé et te servir du gamepad comme carte, pour afficher ta carte. Soit l'écran s'affiche sur les deux en même temps. Donc tu peux faire un petit peu comme tu veux. Tu vas pouvoir prendre plusieurs photos dans tous les angles.
Est-ce qu'on peut mettre des filtres Instagram ou pas?
Il n'y a pas de filtre Instagram, c'est un très bon appareil photo.
Tu peux envoyer sur Facebook, sur Twitter.
Tu peux partager sur tes réseaux
sociaux. Quelqu'un,
évidemment, c'est pas vrai, hein, il raconte que des bêtises. Donc tu vas pouvoir effectivement orienter ton appareil photo comme tu le veux. Par exemple, quand tu vas prendre en fait un esprit en photo, tu vas voir des fragments d'esprit qui vont l'accompagner. Alors si tu arrives à en prendre 5 en même temps, tu vas pouvoir déclencher ce qu'on appelle, et ce que les fans de la série connaissent bien, le cadrage fatal.
Le Fatal Frame du nom
du jeu aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Et donc, qui va te permettre de faire un max de dégâts sur le fantôme. Ouais.
Tu peux améliorer ta caméra.
Ton appareil photo. Toujours avec des améliorations, des upgrades, des objectifs
Il y avait des histoires avec les costumes aussi, visiblement, en Europe,
Tout à fait, ouais, il y a des costumes un petit peu sexy, un petit peu olé olé. Moi, j'ai pas...
Le sexy, c'est scandaleux, quand même.
Je trouve que c'est scandaleux. Ouais. Je trouve que c'est scandaleux. Moi, j'ai pas trop prêté attention à toutes ces histoires accompagnant la...
Et alors, si je dis pas de bêtises, c'est bien Project Zero qui est distribué d'une façon un peu spéciale sur Wii U, dans le sens où le premier chapitre est gratuit quand tu vas sur l'eShop et tu le testes un peu comme une démo et tu peux acheter les suivants. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Alors moi j'ai eu le jeu complet. Donc mais effectivement quand tu le prends sur l'eShop en termes de code effectivement il me semble que tu dois d'abord télécharger
le premier
code et après une fois que tu l'as téléchargé tu peux télécharger
mais je crois que c'est
reste.
Ça regardez si vous avez
de
Wii U
dire, moi,
sur le store je crois que le premier épisode est gratuit.
Voilà, moi j'ai tout téléchargé voilà effectivement donc en entier. On a toujours donc les filtres, différents filtres, le filtre 14, le 61 et le 90 qui est le filtre le plus puissant
pour les boss.
Pour les boss exactement. On a toujours les tous les items qu'on connaît bien plus des nouveautés puisque dans ce jeu dans cet épisode l'eau va avoir un rôle très particulier d'où le titre la prêtresse des eaux noires, n'est-ce pas? Plus on sera mouillé, plus votre personnage sera mouillé, plus vous serez vulnérable aux attaques des fantômes et plus votre sens votre sixième sens sera affiné. Donc vous ressentirez plus facilement les attaques, les arrivées des esprits. Et donc vous aurez moyen de soigner cette vulnérabilité en utilisant de la braise pure. Qui va tout de suite vous sécher. C'est pour ça que je le soulignais d'ailleurs dans le test. Ça m'a semblé un petit peu superflu. Cette futures dans le jeu, puisque une fois que t'es mouillé, effectivement, t'es vulnérable, mais tu peux te soigner très facilement, puisque tu trouves de la braise pure un peu partout. Donc ça, c'est pas quelque chose. J'ai pas trouvé ça exceptionnellement. Ça aurait pu être intelligent si on n'avait pas pu se soigner, ou si ça s'était soigné au fur et à mesure naturellement. Si tu t'étais séché au fur et à mesure en avançant, là tu peux te soigner comme tu veux puisque tu te sèches avec la braise. Donc voilà pour les nouveautés. Quoi d'autre? Moi j'ai adoré l'expérience. J'adore les Project Zero, donc effectivement je suis assez fan de la série. Effectivement ça ajoute pas mal d'immersion, l'utilisation du gamepad. Maintenant, pas mal de défauts, notamment effectivement la lourdeur des déplacements qui effectivement colle parfaitement à l'univers et c'est assez habituel pour ceux qui connaissent bien la série. Mais là, je trouve que c'est un peu trop. Un petit peu trop. Mouvement de caméra un peu improbable. Quand on tient l'appareil photo, on peut pas se déplacer comme on veut. Enfin, il y a des défauts. C'est pas un Project Zero parfait, mais j'ai passé
comme tous
vraiment
les autres,
un bon moment.
Ouais, comme tous les autres.
De toute façon, le jeu parfait n'existe pas. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'avoir intégré le gamepad au gameplay, de pouvoir se servir
c'est bien d'avoir
de la
le
tablette
gamepad un peu utilisé, ouais, effectivement.
Effectivement, d'utiliser sa fonctionnalité et c'est vrai que ça apporte forcément beaucoup plus d'immersion.
Et comment ça se passe pour la gestion des trois personnages?
C'est des chapitres. Tu peux pas switcher d'un personnage à l'autre. C'est pour ça aussi que plusieurs fois tu vas repasser dans les mêmes lieux, donc ça peut être un peu effectivement aussi un peu redondant. C'est ce que j'ai également reproché au jeu dans mon test, dans les points négatifs. Après c'est pas non plus des points négatifs, c'est pas
bugs
très exactement, c'est pas très très grave. En tout cas ça gêne pas, ça ne nuit pas profondément à l'expérience, mais il faut le relever, il faut le noter. En tout cas pour le coup, très bon jeu.
Bon, maintenant on va passer au dernier jeu de la semaine. C'est un jeu épisodique, jeu d'aventure narratif
Et c'est toi qui vas nous en parler.
Et c'est moi qui vais vous en parler. Ah, est-ce que déjà vous y avez eu l'occasion de jouer au moins un épisode?
Je crois qu'on attendait tous qu'il se soit complet.
Exactement. Ouais, c'est un
ah ouais, donc vous êtes du genre à l'épisodique. Non, je pense pas.
Non, mais moi j'aime bien. C'est juste que
je prends à la fin quoi.
Il y avait d'autres jeux en attendant, donc c'est bien.
Ouais, même Resident Révélation 2, c'était en format épisodique.
C'était une semaine à chaque fois d'attente.
Ouais, donc non.
Là, ça s'est étalé sur 9 mois quand même depuis le 20 janvier, depuis le premier épisode Chrysalis.
C'est long, hein.
C'est très long. C'est très long. Après, au moins, on était à peu près prévenus, contrairement à ce que Telltale a l'habitude de faire avec ses jeux. Là, on vient d'apprendre, par exemple, que le 6e épisode de Game of Thrones arrivait le 17 novembre. Un peu comme ça, le dernier était paru en juillet.
Il communique pas beaucoup. Hein.
Telltale, là-dessus, non, il communique pas des masses. Là, Dontnod nous a prévenu quand même il y a quelques semaines qu'il sortait le 20 octobre, ce 5e épisode. Alors, j'ai envie de dire, après le twist du 4e épisode, la fin du 4e épisode, on pouvait s'interroger vraiment sur être mangé dans ce cinquième épisode. Et ah bon, c'est vrai. Alors il paraît qu'il y a un problème avec le micro, nous dit Poufleguen, donc je vais changer de micro. C'est parce que là il marche toujours pas, non, je sais pas, ça grésille. D'accord, alors je vais changer. Et hop, j'ai changé, j'ai pris le micro de Julo qui ne parlera plus. T'es dégoûté. Donc voilà, petit problème technique. Cinquième épisode qui conclut l'aventure en beauté, quoi, tout bêtement. C'est peut-être l'épisode le plus bavard et le moins joueur, mais c'est celui aussi qui permet d'arriver on va dire au climax de l'aventure, à savoir le lien qui unit Max, donc la petite adolescente photographe en herbe qui depuis le premier épisode a le pouvoir de manipuler le temps, et le lien qui l'unit elle donc à Chloé, son amie d'enfant. Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien du tout.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas bien là. Ah bah vous regardez en vous marrant. Dites-moi la vérité.
La vérité.
Ok. Alors, je sais plus où j'en étais du coup.
Tu me racontais
le lien entre Max et Chloé.
Voilà.
Ah, le lien entre Max et Chloé, oui, parce que Chloé qui est sauvée in extremis dans le premier épisode par Max. Alors écoutez, je crois que j'ai compris ce que vous êtes en train de me dire, mais vous pourriez le faire dans le micro, ce serait plus marrant. C'est, je fais un bruit bizarre avant de parler, c'est ça?
Mais non, pas du tout.
Si,
il va pas y arriver.
Non, mais je suis sûr que vous êtes en train de foutre de ma gueule, vous voulez pas le dire.
Je te jure que non, parole.
Poufi, tu me confirmeras ça.
Il jure sur la tête de ses enfants, donc pour te dire. Moi, je te jure sur la tête de Julien.
Ok, alors. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, j'ai vraiment perdu le fil avec vos conneries.
Le lien entre Max et Chloé.
Le lien entre Max et Chloé qui s'est vraiment étoffé.
C'est quoi ce lien?
au fil de toute l'aventure. En fait, Chloé est la meilleure amie, était la meilleure amie d'enfance de Max, et elle l'a sauvé d'une mort certaine grâce à son pouvoir justement de rembobinage dans le temps. Et il y a finalement une enquête qui va être menée par les deux. À propos d'une amie de Chloé qui a disparu dans la ville d'Arcadia Bay, la ville fictive d'Arcadia Bay. Une enquête un peu bizarre parce qu'elle implique visiblement d'autres élèves de son lycée. Grâce au pouvoir que Max utilise, elle va justement apprendre des choses, revenir en arrière. C'est un des éléments importants du jeu, c'est de pouvoir choper des informations ou vivre d'autres chose pour essayer d'évaluer les conséquences de ses actions et de ses choix. Donc c'est le truc le plus important du jeu, c'est évidemment les choix, les conséquences. Depuis le premier épisode, oui.
Non mais tu sais bien ou pas alors?
Attends, parce que depuis le premier épisode, on a pu voir justement une évolution.
Là, tu nous as quand même raconté toute l'histoire.
Non, pas du tout. Là, je vous ai rien dit du tout. Hein.
C'est vrai.
Ah ouais, je te promets. Et depuis le début de toute l'histoire, donc il y a une enquête et cette possibilité donc de revenir en arrière, plus une espèce de prophétie qui apparaît à Max comme quoi il va y avoir un cataclysme qui va arriver. Tous ces trucs là s'imbriquent en même temps, et du coup pour cette fin, tout va nous revenir dans la gueule avec un choix final en particulier qui est absolument horrible, parce que il faut quand même savoir que pendant tous les épisodes, le but de Max, grâce à son pouvoir, c'est d'aider tout le monde, c'est de faire plaisir à tout le monde, genre ah toi il t'arrive des soucis, bah tiens je vais te filer un coup de main, ah bah toi tu vas te prendre un ballon dans la gueule, je vais revenir en arrière, ah je te préviens maintenant tu ne te prendras pas le ballon dans la gueule. C'est toujours essayer de faire du mieux possible pour tout le monde, mais sauf qu'elle peut pas contrôler les conséquences. On l'avait vu notamment dans le quatrième épisode, à la fin du troisième épisode, début du quatrième épisode, elle voulait vraiment faire ce qu'il y avait de mieux pour Chloé et finalement ça s'est pas super bien passé. Donc c'est plutôt tendu. Et le dernier choix, donc comme je disais, ça va être le choix le plus difficile. Je crois que je suis resté 10 minutes devant mon écran à essayer de savoir ce que j'allais faire. Parce qu'on a vraiment que deux options et les deux options, elles sont pas très cool. Voilà, Poufy m'a dit qu'il avait pas encore pris sa décision au moment où on enregistre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc en termes d'histoire, c'est super bien écrit. Ça a évolué de quelque chose de très mélancolique, très ado, très Juno, très film indé américain. On va dire adolescent, ouais, et à quelque chose. La science-fiction était pas trop portée, enfin, pas trop appliquée au début, et au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup plus sombre à mesure que les pouvoirs de Max étaient utilisés. Et voilà. Donc pour ce cinquième épisode, c'est pire, et ça fait que du coup, l'ensemble, c'est vraiment un jeu, comment dire, bouleversant. Voilà, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est que c'est un jeu bouleversant. Qui remue vraiment aux tripes et qu'on peut que conseiller maintenant qu'il est complet, d'autant plus qu'on peut vraiment que conseiller aux amateurs d'aventure. Alors c'est pas le jeu qui va vous faire jouer énormément, je vous dis, les composantes jeu, à savoir manipuler le temps vraiment beaucoup, et y a des petites séquences aussi un peu pénibles de recherche de bouteilles dans le deuxième ou troisième épisode. C'est des trucs un peu accessoires, quoi. C'est vraiment une expérience narrative où c'est l'histoire qui va être changée, et il le réussit très très bien. L'écriture et la mise en scène et l'ambiance générale sont quasi parfaites. Voilà.
Bon, bah écoute, ils sont tous sortis, donc moi c'est effectivement, c'est ce que je disais, j'attendais qu'ils soient tous dispo pour pouvoir y jouer, donc ça donne envie, ça a l'air d'être lourd de conséquences tout ça.
Ouais, absolument.
Donc c'est intéressant à voir.
Je vois que ça vous a...
On est un peu... Ouais, non, on dirait qu'on a pris de la drogue, mais...
Mais tu peux prendre l'autre micro, Julo, c'était juste qu'il grésillait un petit peu, mais là maintenant ça devrait aller. Pas.
Ah, bah, tu vois, c'est bon, bon, il vient de connerie.
J'ai un micro, alors.
T'as un micro.
Ok, très bien. C'est combien de temps par épisode ?
Environ 2-3 heures.
Ouais, c'est comme le jeu Telltale.
Exactement.
Fait.
Sauf qu'ils ont mis une petite droite à Telltale sur pas mal
alors
de
justement,
trucs.
Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est ce que j'ai envie de te demander. Je crois que tu as fait une vidéo là-dessus. Hein. Mm-hmm. J'ai quelque chose à vous dire sur est-ce que c'est le meilleur jeu narratif qui soit. Je crois que tu le mets vraiment juste derrière la première saison de Walking Dead.
Derrière la première saison de The Walking Dead et The Wolf Among Us.
C'est quand même balèze.
Très très haut. Bah ouais, mais c'est-à-dire que tu sais, l'histoire de choix, de cause-conséquence, ouais, c'est quelque chose qui est totalement illusoire dans les jeux tels et qui des fois n'est pas très bien appliqué parce que c'est souvent remis au second plan, quoi.
Ouais.
Vraiment tout ce que t'as fait a vraiment eu de l'importance tout au long du jeu. Tu le sens, quoi. Tu sens qu'il y avait quelque chose. Et puis surtout, c'est surtout le lien qui est créé avec tous les personnages qui est vraiment beaucoup mieux développé qu'avant.
Ce qui est appréciable aussi, je trouve, comme ça vu de l'extérieur. Mm. Moi, j'ai fait des jeux tels, mais j'ai pas joué à celui-ci. Ouais. Mais ce qui m'attire, c'est aussi la réalisation. Je parle pas uniquement de graphisme, etc., mais la façon dont c'est présenté, quoi.
Ah bah, c'est-à-dire
que les jeux tels, on reste quand même sur un plan très jeu d'aventure à l'ancienne, même si bon, c'est des environnements en 3D, etc.
Ouais.
Mais c'est un peu du point and click. Là, il y a des éléments point and click aussi, d'après ce que j'ai compris. Mais
bah, c'était
plus dans un moteur de jeu un peu plus moderne, quoi.
Ouais, ouais, enfin, ouais.
Dans une réalisation un peu plus ambitieuse, quoi. En tout cas.
Non, mais la réalisation n'est pas.
Dans une esthétique, on va dire. Voilà,
la direction artistique, oui, mais après, la réalisation, elle est un petit peu en retrait. Il y a des vrais problèmes techniques.
Tout ce que je vois, je trouve ça vraiment.
Ah, mais c'est joliment coloré, j'ai envie de te dire. Mais après, techniquement, il y a des problèmes de lip sync qui sont assez gênants, surtout dans les premiers épisodes. Ça, c'est un peu à régler par la suite. Mais t'as des modélisations qui sont carrément catastrophiques. Je pense au proviseur en particulier.
Ah bon?
Qui est très très mal rendu.
Ce qui me fait très envie dans ce que tu dis, moi, c'est aussi les ambiances, c'est-à-dire ce côté un peu Juno au départ, voilà, la vie d'adolescent aux États-Unis, etc.
Il y a beaucoup de ça,
avec le petit twist du pouvoir magique et tout ça. Et puis surtout que tu dises que ça évolue au fil des épisodes, ça, c'est quelque
ça
chose qui est appréciable,
beaucoup plus sûrement.
Quand tu t'attaches au personnage, t'aimes bien les voir changer, évoluer. En fonction de ce
ça fait un peu, ça fait un peu passage à l'âge adulte pour le personnage principal, et c'est vraiment très très bien fait.
Un peu comme Ezio dans.
Exactement.
un peu comme Ezio et Brotherhood.
Donc voilà, c'est disponible en téléchargement sur PC, PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3.
Jouez-y.
Life is Strange, c'est Dontnod, c'est des Parisiens qui l'ont fait. Et c'est très 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 bien.
Il faut vraiment recommander à Dontnod, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible ou pas, mais de sortir une version physique pour avoir un nouvel éclairage sur le jeu dans les boutiques, dans les magasins.
Et de mettre un petit making-of aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans le projet. Ouais. Il a énormément plu depuis la sortie du premier épisode. Je pense que l'ami PewDiePie a dû aider beaucoup à ce qu'il y ait un éclairage dessus quand il a testé le premier épisode et qu'il a trouvé ça génial. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement il y a plein de choses à faire pour le mettre encore plus en avant, ce jeu édité par Square Enix.
Une âme, ce jeu.
Voilà, exactement.
Il a vraiment une âme.
Et moi j'espère qu'il y aura une saison 2 et qu'ils arriveront encore une fois à pousser encore.
Ça donne envie en tout cas.
Le concept du jeu d'aventure
narrative.
Oui, ils en avaient discuté déjà, qu'elle était à peu près. Les contours étaient prêts, quoi, déjà.
C'est
maintenant.
Cool.
On va voir le succès.
Faut espérer que ça ait marché.
Le succès global.
Qu'est-ce qu'on en sait là du succès jusqu'ici? Pas grand-chose. On sait pas.
Bah si écoute, ça... je crois que le premier épisode avait très bien marché, mais il n'y a pas eu de chiffres qui ont été diffusés encore. Donc moi, je suppose que ça marche bien parce que il y a quand même une bonne critique et beaucoup de joueurs et de joueuses s'expriment au sujet de Life is Strange. Donc je suppose que ça devrait rouler.
Il faut le mettre en avant. Et
exactement.
C'est ce qu'on fait présentement.
Exactement, exactement. Voilà. Mais présentement, nous allons aussi passer à toute autre chose maintenant. Rami, Carole, Julo,
c'est
l'heure.
Tout le monde est prêt ou pas?
Absolument, tout le monde est prêt. C'est l'heure.
C'est hyper important.
De discuter de nos coups de cœur hors jeu, puisque vous le savez, toutes les semaines sur Gameblog, nous essayons de vous faire découvrir d'autres choses, que ce soit des séries, des livres, des expos, du ciné aussi, tout ce qu'on a pu découvrir en termes de culture. Ce que Fleur Pellerin adorerait d'ailleurs au passage, notre ministre.
Oh oui, elle aimerait cette semaine.
T'as pas envie de lancer un jingle comme ça là,
un petit jingle non. Non, j'ai pas de jingle sous la main, mais si tu veux le faire, vas-y.
Ah non, d'accord, je pensais que.
Vas-y, je te laisse faire. Non, mais vas-y, fais une petite chanson, toi.
C'est le hors-jeu.
Ah, ok, d'accord. Voilà. C'était vraiment pourri.
C'est vrai,
c'est vraiment hideux.
Il y a pas de. Je pensais que Poufi est en train de préparer un truc pour ça.
Non, Poufi ne prépare rien pour l'instant.
D'accord.
Mais par contre, vous allez préparer
les hors-jeux.
Les hors-jeux dont vous allez nous parler cette semaine. Rami, on va commencer par toi.
Ouais.
Avec un hors-jeu qui est peut-être un peu trop street, mais tu vas nous dire après.
Ouais, trop street, ouais.
Trop street, puisque c'est une série.
Ah, j'aime bien.
Non, c'est pas celui-là.
Pourquoi?
C'est pas ça.
Parce que non.
C'est pas ce que tu
vois. J'aurais bien aimé que tu parles de ça.
C'est pas ce que tu vois, Carole.
J'aurais bien aimé que tu racontes.
Ah ouais, mais non.
Non, mais Carole, c'est pas ça.
Et parce qu'il faut savoir.
C'est pas ça. Donc on va peut-être en parler maintenant.
Il a changé son hors-jeu.
Oui, il a eu raison. Alors, on va parler d'une série qui est disponible
sur.
C'est
une série, c'est un film.
Ah, c'est un film. Je crois que c'est une série.
Oh là là, tu changes tout le temps.
Donc c'est un film qui est disponible sur
Netflix.
Absolument.
Je suis abonné juste pour ça.
Et si je disais qu'il était trop street, c'est parce qu'il y a dedans, il y a
Idriss Elba.
Ah, Idriss Elba, l'acteur britannique de Luther et qu'on a pu voir.
Qui jouera jamais James Bond.
Qui jouera peut-être jamais James Bond. Mais qu'on a pu voir aussi dans Thor. Bref, Idriss Elba. Quel est ce film?
Beast of No Nation.
Ouais,
c'est un film de Cary Fukunaga qu'on a pu retrouver dans la saison 1 de.
C'est lui qui filmait dans la saison 1, c'est le réalisateur.
Ouais, et du coup, en fait, c'est un film qui nous compte l'aventure du petit Agu qui, au début, vit paisiblement avec sa famille, son père, sa mère et son frère. Et en fait, il se trouve que du coup, il y a malheureusement une guerre qui fait rage dans son pays.
Ouais.
Et malheureusement, la famille doit fuir. Sauf que la famille a juste assez d'argent pour envoyer en fait juste la mère et la petite sœur partir. Donc du coup, Agu reste avec son père. Et en fait, on voit que l'armée se bat contre les rebelles. L'armée qui est complètement corrompue, qui va.
C'est un pays imaginaire, non c'est, on sait dans quel pays ça se déroule.
D'ailleurs, je crois qu'ils n'en ont pas parlé. Je sais qu'il y a les soldats camerounais, mais je pourrais pas dire le pays exactement.
D'accord.
Et du coup, on suit les pérégrinations du petit, qui lui part après la mort de son père et de son frère, décide de partir dans la brousse, et du coup se fait recueillir par le commandant, qui est Idriss Elba, qui va le prendre sous son aile et qui va le former en tant que
enfant soldat.
Enfant soldat, ouais. Et du coup, on va le voir un peu décliner, tuer des gens, etc., et prendre de la drogue. Et du coup, voir un peu comment il va.
Ça a l'air joyeux encore.
Ah, ça a l'air très joyeux, ouais.
Comment ça tu dis ça a l'air? Tu l'as vu?
C'est pas joyeux du tout. Non, c'est un pauvre petit qui a rien demandé et qui, du coup, se retrouve à faire la guerre, à tuer des gens, à essayer de survivre, se droguer. Et du coup, c'est un peu. Bon, après, je vais pas te dire tout le film, mais je vous conseille vraiment de le regarder.
C'est hardcore, quoi.
Ouais, c'est. Ouais, il y a des phases vraiment. C'est pas regarder. Difficile à regarder et qui sont. Ouais, il y a des scènes où on voit. Des morts, c'est
atroce.
Assez violent.
Assez atroce, ouais. Et du coup, ouais. Mais je vous conseille vraiment de le regarder. Et Idris Elba est vraiment très bon. Enfin, il est très bon.
Il a jamais été mauvais, de toute façon. Donc,
peut-être dans Pacific Rim, c'était un peu. Bon, voilà.
Non, arrête.
Mais sinon, il est vraiment très bon dans son rôle de commandant, qui gère, qui fait d'ailleurs des. Qui est pas très.
Il est passé de Mandela quand même à commandant. C'est quand même l'opposé, quoi.
C'est lui qui recueille tous les enfants, vraiment sa troupe de d'enfants soldats qui veut essayer de reprendre le pays. Enfin, il a vraiment des intérêts qui sont pas non plus super cool. Et du coup, on le suit un peu et vraiment, enfin, c'est vraiment une histoire qui est vraiment surprenante de bout en bout. Qui m'a vraiment laissé
mise
de
en
marre,
scène voilà. Comme c'est
Fukunaga, ouais, il gère, il y a pas à dire.
Il y a du plan séquence de fou encore comme il a pu nous en faire dans True Detective ou pas?
Non, il y a pas ce plan séquence à la True Detective où on suit non, c'est pas la même chose.
C'est beau les plans séquences.
Quand c'est bien géré, ouais.
La suite True Detective, il était dingo.
Il était fou. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous avez si abonné à Netflix.
Donc Netflix.
Ouais, de le regarder.
Bon, bah, ça tombe bien, on parle de Netflix toutes les semaines.
faut avoir la pêche, quoi, avant de se lancer là-dedans.
Ouais, faut être heureux avant de regarder.
Faut être en joie.
C'est ça.
Joyeux.
Bon, et bah écoute, on va passer du coup à Julo. Oui. Qui, ça, c'est plus joyeux que ce dont tu veux nous parler.
Oh oui, c'est autrement.
Quand même beaucoup plus joyeux. C'est une exposition. Joyeux,
oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est une exposition que je voudrais recommander aux gens qui voudraient aller dans des musées avec des enfants. Parce que c'est vrai que souvent, ça peut être un peu difficile pour eux de suivre, de s'intéresser.
C'est chiant quand on est enfant.
Voilà, quand on est enfant, ça peut être chiant d'aller au musée.
Oh, regarde un tas de cailloux. Ah ouais, super. Ouais. Merci, on peut manger une glace.
Voilà, bon, là, c'est pas pour aller voir des tas de cailloux. Donc, c'est. Une expo qui s'appelle Mythe fondateur d'Hercule à Dark Vador. Et ça se trouve au musée du Louvre. Alors déjà, c'est sympa de faire une sortie au musée du Louvre. C'est gratuit pour les enfants. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Hein, jusqu'à 18 ans, hein, les enfants, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, ça, c'est une expo qui est vraiment faite pour eux dans le sens où... donc c'est dans le pavillon Richelieu. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une galerie nouvellement ouverte qui s'appelle La Petite Galerie, qui est composée de 4 salles. Donc ce n'est pas très grand parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps pour les enfants. Et en gros, l'idée, c'est de parler des mythes anciens et modernes, et voir les ponts qu'il y a entre les deux, et que les enfants comprennent que, parce qu'ils connaissent tous Dark Vador et ils le voient sur l'affiche, etc., et que bah, c'est un personnage de... c'est un personnage mythologique au même titre qu'à l'époque. Voilà, on créait des héros, des méchants et des histoires entre des dieux pour expliquer les choses qu'on ne s'expliquait pas, à savoir le lever du jour, la tombée de la nuit, la colère des océans et de la météo, etc. Et donc c'est une petite expo qui est donc, comme je le disais, sur 4 salles, dans laquelle tu vas découvrir les dieux grecs, tu vas découvrir les histoires d'Ulysse, la façon dont on expliquait, comme je disais, dans certaines mythologies, la nature, les phénomènes naturels. Et puis on va parler aussi même des personnages de certains folklores, notamment le folklore japonais, les tanuki et les tanuki et les renards, etc. Et on arrivait à faire le pont donc avec les mythologies modernes et les héros de nos temps. Donc évidemment, Star Wars a une place très importante là-dedans parce que c'est vraiment...
C'est une tragédie grecque, Star Wars.
Voilà, c'est ça. Donc c'est non seulement une tragédie grecque moderne, mais je veux dire, c'est un mythe moderne, mais aussi comprendre que finalement tout ce qu'il y a dedans, ça vient d'histoires qui ont déjà été dites et redites de mille et une façons différentes. À travers d'autres histoires. Et donc ce qui est bien, c'est que donc c'est court, c'est compréhensible pour les enfants, et puis il y a plein de petites choses qui leur permettent de passer un bon moment. Par exemple, on te donne avant de rentrer une petite plaquette dans laquelle tu as des jeux à l'intérieur, et on te dit voilà, saurais-tu trouver, donc dès que tu arrives il y a un buste de Vénus, saurais-tu trouver l'autre Vénus. Alors il faut que tu ailles lire un petit peu les trucs à droite à gauche, et chaque pièce qui est présentée, donc tu as des vases grecs qui datent
De
Mathusalem. T'as tout un tas de choses de différentes civilisations, et elles sont derrière des vitrines, mais en fait ils ont donc mis un petit texte pour que tu puisses comprendre ce que c'est, et également un petit truc à toucher pour toucher, parce que les enfants ont toujours envie de toucher la matière de l'objet en question. Donc la matière de l'objet en question est reproduite à chaque fois à côté du petit texte qui l'explique, pour que les enfants puissent toucher et comprendre. T'as des petits jeux qui sont disséminés à droite à gauche aussi. Donc les enfants doivent ouvrir des volets Et il y a des défis qui leur sont proposés. On peut allumer certains trucs, en éteindre d'autres, etc. Enfin bref, il y a un aspect vraiment ludique.
Et pour les adultes, pour que les adultes s'amusent, il y a quoi ?
Et ben pour les
adultes, il y a de la bière.
Bah, il y a pas de bière, il y a pas de, il y a pas de bande d'arcade, tout ouais. ça. Hein. Non, non, les adultes accompagnent leurs enfants véritablement dans, dans cette découverte. Et les enfants ont vraiment des choses à raconter après.
Bah,
et
c'est
puis,
ludique
et puis
aussi
pour eux,
pour les adultes,
vraiment
hein.
aller au Louvre avec des enfants, c'est génial parce que voilà, il y, y a des tas de choses à voir et notamment donc de cette expo qui va beaucoup plus
donc, qui s'appelle
accaparer leur attention.
Mythe fondateur d'Hercule, Dark Vador.
Tout à fait.
Ça se tient
et
au
alors,
Louvre.
À noter que si vous y allez, c'est assez intéressant de pouvoir. Alors, les déesses, vous savez qu'au Louvre, on peut louer une déesse
ouais.
Et
on a un audio guide,
un audio guide permanent. Ouais. Pas compatible avec cette exposition, mais vous pouvez télécharger une application sur l'App Store ou sur Android qui s'appelle La Petite Galerie et dans laquelle bah, vous allez avoir déjà des choses accessibles quand on est malvoyant, malentendant, etc. Mais aussi pour les enfants, bah, des petits speeches qui vous introduisent chacune des pièces. De l'expo donc avec un petit casque voilà, on peut avoir de l'audio aussi donc ça c'est assez intéressant et comme je vous disais c'est ludique et tout donc parfait pour les petits bambins.
D'accord, très bien voilà. Et tu sais jusqu'à quand ça se tient ou pas?
Oh, ça dure quelques mois hein. Je sais plus exactement ça dure encore sur 2016 je crois et puis il va y avoir aussi il y a une médiathèque au Louvre avec des événements spéciaux pour les enfants justement qui sont liés à cette expo donc pour ça il suffit d'aller sur le site du Louvre et de se rencarder mais en tout cas elle vient tout juste d'ouvrir cette exposition parce que c'était le 17 octobre dernier.
Star Wars donc, cette saison quoi.
Voilà.
Ah oui.
En ce moment
les mythes fondateurs.
De doute. Carole. Il reste toi encore.
Mon Dieu.
Pour ce
Carole,
c'est comme à l'école.
De quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler d'un
ça parle,
reportage.
J'essaie de faire le lien avec le Louvre parce qu'au Louvre il y a une pyramide.
Ah oui, ça parle des pyramides de Gizeh. Ouais, ouais,
du coup, tu vas nous parler
de du mystère de la grande pyramide. Alors, c'est un reportage qui était sorti il y a quelques années sur le net. Un reportage qui est inspiré d'un livre introuvable.
D'accord.
Le mystère des pyramides, secret révélé. Un livre de Jacques Grimaud.
Pourquoi il est plus édité ?
Écoute, je ne sais pas, mais tu peux aller le chercher sur Internet, c'est ce que j'ai fait moi-même. Tu peux aller sur les forums, te renseigner, le livre est introuvable. Alors si quelqu'un, si vous qui
mais
nous
c'est
écoutez,
un mystère, ça.
C'est un mystère en plus, c'est un mystère dans le mystère des pyramides. Donc si quelqu'un de qui nous écoute sait où trouver le bouquin, ou peut-être si quelqu'un le possède déjà, c'est possible.
Vous l'avez mis sur le bon coin.
N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à nous faire signe, parce que c'est vraiment un livre que j'aimerais lire. C'est très intéressant à regarder en reportage également. Donc encore une fois, c'est un livre de Jacques Grimaud, mais le reportage est raconté avec la voix d'une femme.
Le reportage est vraiment l'adaptation du livre, en
tout
fait.
Tout à fait, d'accord. Exactement. Donc elle raconte. Alors ce n'est pas un roman, hein, c'est un comment dire, c'est une enquête qui a été menée donc par ce Jacques Grimaud. Et donc cette jeune femme raconte très très bien donc tous les mystères tournant autour du site de Gizeh, donc des grandes pyramides. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours passionnée et c'est passionnant. Donc c'est un reportage qui a fait beaucoup de bruit sur la toile. Pourquoi ? Parce qu'il a bien sûr engendré beaucoup de questions, beaucoup de réactions des gens qui l'ont un petit peu cassé dans tous les sens derrière.
Pourquoi ?
Parce que ça part un peu dans tous les sens.
Ça part sur Mars ou pas ?
Alors ça part pas sur Mars.
Mais c'est genre les théories du complot et tout ça.
C'est un petit peu ça en fait. Si tu veux.
Ça valide la présence de la première civilisation dans
civilisation peut-être qu'on aurait occulté, une civilisation qui serait arrivée avant les Égyptiens.
Ouais, voilà. Donc c'est Stargate, c'est bien ce que
j'ai dit. C'est assez, assez
faut
comment dire.
Portail,
moi, ça m'a beaucoup plu. Cette jeune femme, enfin, c'est Jacques Grimaud, mais c'est une jeune femme qui parle, donc je vais dire cette jeune femme.
La narratrice, quoi.
La narratrice, voilà, exactement. Va voir un informateur dont on ne sait pas le nom, l'identité. D'ailleurs, c'est ce qui avait été relevé dans pas mal de commentaires.
Excuse-moi, mais ça veut dire que c'est une fiction créée à partir
ça
de
ça n'est
faits
pas
réels.
Une. Non, non, ça n'est pas
ah
une
non,
fiction.
C'est une hypothèse.
C'est ouais. C'est une hypothèse. En fait, il y a des faits.
D'accord.
Il y a des faits. C'est en deux parties. La première partie se concentre sur les faits. La deuxième partie sur des hypothèses. Et donc la narratrice va raconter comment, grâce à cette enquête, à son enquête, aux gens qu'elle a pu aller voir, dont cet informateur hein, dont on ne sait rien, elle a pu rassembler pas mal d'éléments. La pyramide de Gizeh qui s'est construite donc soi-disant en 20 ans, c'est quand même très court, avec des pierres qui pesaient chacune. Le mystère de la construction. Comment ça a pu être fait? Elle a mené une enquête sur plusieurs sites historiques. Elle est partie notamment sur l'île de Pâques, qui est quand même l'endroit le plus isolé au monde. Elle a fait le rapprochement avec tout un tas de sites historiques.
Dont on a découvert il y a peu, excuse-moi de te couper, qu'elles avaient un corps.
Ouais. Absolument.
C'est incroyable.
Elles ont un corps qui est enfoui dans le.
Exactement. Ouais, et ça, ça a été découvert il y a très peu de temps.
Parce que personne n'avait pensé à creuser.
Je me suis dit, c'est quand même dingue. Je sais pas, on peut pas avoir des scanners qui voient à travers la Terre et tout.
On peut pas mettre un coup de pelle.
Entouré de beaucoup de mystères, effectivement, l'île de Pâques.
Alors là,
ces fameuses
ils en parlent peut-être pas dans le reportage, parce que c'est trop récent.
Ça date un petit peu, ce reportage. Je pourrais pas te dire, mais peut-être qu'en regardant sur. Mais pas du tout. Enfin, tu
trouves
totalement le droit, il fallait le dire. C'est important de le signaler. Et effectivement, elle fait le rapprochement donc avec divers sites historiques qui s'alignent totalement.
Donc il parle aussi, j'imagine, des dessins des Mayas dans les champs, etc.
Absolument, on en parle aussi.
Comment on appelle ça,
je sais plus.
Des crop circles.
Ouais, voilà, exactement. Donc elle en parle, elle parle de beaucoup d'autres sites qui sont alignés. Et elle en arrive à la conclusion que le site de Gizeh serait une gigantesque horloge cosmique. Le sphinx aussi aurait un rôle à jouer dans cette horloge, puisque l'œil du sphinx regarderait les étoiles.
Immédiatement.
Mais moi, je suis passionnée par ce genre de théorie. C'est assez. C'est très prenant. Ça interpelle.
Mais est-ce que ça te fait adhérer à la thèse de cette personne?
Oui, non.
Est-ce que tu penses que c'est une horloge cosmique?
Oui, non, ça part dans tous les sens. Mm-hmm. Ça part dans tous les... Mais d'ailleurs, je l'ai regardé avec Julien. Je l'ai regardé avec Julien, qui a beaucoup aimé. Salut.
Ah bah Julien, qui
répond à la question de Julot.
T'écoutes aux portes, toi.
Bien sûr, évidemment. Je crois qu'en tout cas, sa thèse, elle est simple. C'est est-ce qu'on doit prendre comme acquis tout,
ce qu'on nous a raconté,
alors que ça s'est passé il y a quand même 2-3 000 ans, voire même avant, qu'il n'y a pas eu d'écrit, qu'il y a des choses qui sont quand même éminemment contestables, comme 20 ans pour construire les pyramides, là où tu vois qu'il a fallu quand même 2 siècles pour faire Notre-Dame, des trucs comme ça, tu calcules le nombre de blocs, etc. Donc, si la thèse, c'est ça, moi, en tout cas, je pense que oui, il faut réouvrir le débat. Et je vous
ouvrez le dossier.
Conclure le podcast.
Je propose qu'on mette Trace sur le coup, parce que c'est un autre spécialiste.
Ah bah, ça sera le maison
je savais pas qu'il aimait bien ce genre de choses.
Trace, toutes les théories du complot, il les connaît toutes par cœur.
Mais moi,
je pense que c'est lui qui les a lancées.
Je pense qu'il en a lancé certaines. Mais je trouve que c'est quand même assez fascinant. Moi, j'ai toujours été fascinée par les pyramides, voilà, les pharaons, etc. L'égyptologie, voilà,
tu sais,
l'histoire.
Pareil, quand j'étais petit, je voulais être égyptologue.
Non, mais c'est super intéressant.
Égyptologue.
C'est fantastique.
Moi, je voulais être pharaon.
Moi je voulais être entier, mais bon, c'est un bon métier aussi. Et donc, du coup, effectivement, c'est hyper intéressant, c'est bien raconté, c'est prenant, ça dure à peu près environ 2 heures, c'est disponible sur internet. Encore une fois, c'est adapté donc d'une enquête d'un livre de ce fameux Jacques Grimaud dont on n'a pas retrouvé la trace. Enfin, je parle du livre, pas de Jacques
Grimaud.
Ça, c'est très étrange. Pareil, l'informateur que la narratrice.
Mais genre, il y a la
voir,
référence
sait,
sur Amazon, mais il est plus disponible, c'est ça?
Je crois qu'il y a la référence effectivement sur un site de vente comme Amazon, c'est peut-être Amazon d'ailleurs, je ne sais plus. En attendant, effectivement, voilà, ça pose la question, est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qui a été écrit dans les livres d'histoire? Est-ce que les égyptologues, les historiens ne se posent pas eux-mêmes la question, mais ce serait trop compliqué de dire qu'on s'est trompé ou de réécrire les livres d'histoire, donc on s'en tient à ce qui a été dit jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une civilisation encore plus ancienne que les Égyptiens? Est-ce que les pyramides...
C'est dont on parle dans Assassin's Creed.
Ouais, voilà, ouais.
C'est la première civilisation. On y revient. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a eu des extraterrestres qui sont descendus sur Terre il y a je sais pas combien d'années. C'est pas forcément ça dit autrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une civilisation qui maîtrisait
certaines technologies,
le maître par exemple, on pensait que les Égyptiens ne connaissaient pas n'avaient pas ce genre de notions mathématiques. Ils connaissaient le maître. Forcément, ils connaissaient le maître, parce que quand on regarde les dimensions de la pyramide de Gizeh, on le voit dans le reportage. On a cet informateur qui fait tout un tas de calculs que je suis peut-être un peu trop simple d'esprit pour comprendre, mais on arrive quand même à suivre. Il en arrive, on y trouve le nombre pi, on y trouve le nombre d'or. C'est assez déroutant. Et tu te dis, mais merde, attends, ils avaient des notions mathématiques. Ils avaient ces notions-là. Ils avaient ces notions-là. Pareil, quand tu vois les objets qu'ils arrivaient...
J'ai envie de revenir sur Assassin's Creed, là, mais je vais être déçu parce que je vais plus avoir ce genre d'histoire.
Les objets qu'ils arrivaient à confectionner, les statues, les visages de sphinx qu'ils arrivaient à faire, qui étaient parfaitement,
symétriques,
avec le peu d'objets dont, soi-disant, ils disposaient. on ne sait pas, on n'y était pas. Donc, elle pose, si tu veux, ce reportage, en tout cas, pose toutes ces questions. Je trouve que c'est très intéressant. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Il est disponible sur Internet. Vous tapez le mystère, le secret des grandes pyramides, le secret des pyramides. Vous le verrez. C'est le premier qui ressort. Il fait 1h48.
Il
n'est pas en très bonne qualité. Oui, il est dispo sur YouTube, mais pas en très bonne qualité.
Mais toi,
sur
tu l'as regardé comme ça ouais.
Moi, je l'avais regardé déjà il y a un ou deux ans sur YouTube. Et là, il y a quelques jours, Julien ne l'avait pas vu. Et je lui ai dit, viens, on se le mate. Tu verras, c'est assez intéressant. Et vraiment, je vous le conseille. Voilà, ça dure à peu près 2 heures. Et ça soulève pas mal de questions intéressantes.
Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça n'a presque rien à voir. Mais nous, on a entre 30 et 42 berges maintenant. Donc, on a connu cette époque formidable des films d'aventure et des films pour notre génération. Incroyable. Il y en a un qui n'est pas assez connu. C'est Le Secret de la Pyramide.
Le Sherlock Holmes sans fond.
Oh là là, putain,
mais c'est
extraordinaire.
D'accord,
c'est
alors
j'ai essayé de le trouver.
Je l'ai pas vu.
Et bah, il passe souvent pendant Noël. Hein,
alors
sur,
peut-être
sur
à Noël, etc. Il faut le jouer comme ça parce que moi j'ai essayé de le choper sur Xbox Video, sur le PlayStation Store.
C'est un Spielberg.
C'est un film de Spielberg avec Sherlock Holmes. C'est sa première enquête dans le
Secret des
Pyramides.
Quand il est enfant,
il vient de rencontrer
Watson.
C'est les Goonies en mode.
Il se rencontre à Oxford en fait dans l'université.
C'est un très bon film.
C'est génial. Et alors franchement, c'est du même niveau que les Goonies, c'est tout quoi. Sauf que les Goonies se trouvent
ça me fait tout
très facilement.
Et tu le revois tous les jours sur
RTL9.
Moi je l'ai revu, je
l'ai
montré à mes enfants, ils ont surkiffé.
Bah, c'est fantastique.
Ça traverse les générations. Mais donc bien le secret sûr. De la pyramide,
d'accord.
Si vous pouvez le voir, voyez-le. C'est
mais,
génial.
Mais c'est fantastique les pyramides. Voilà, c'est vraiment un pan de notre histoire qui est vraiment intéressant. Voilà.
Très bien. On va finir avec un dernier hors-jeu qui va faire plaisir à Julo, parce que tu n'as pas commencé encore la saison 2 de Fargo.
Oh là là,
mais moi aussi.
J'en rêve.
Et oui, on est déjà à 2 épisodes au moment où on enregistre.
Moi non plus, j'ai
c'est
pas commencé d'ailleurs.
Tous les mercredis c'est maintenant,
t'as
c'est diffusé.
La première
Franchement,
vas-y, tu peux foncer. Fargo, c'est génial. T'as vu le film ?
Comme le dit, ouais.
Des frères
Coen. Ouais, absolument.
Tu peux même revoir le film avant si ça
mais
fait longtemps qu'il l'a vu.
Ouais, ça fait toujours peur les séries.
Tu te mates le film,
faut pas, les...
et tu te regardes la première saison déjà.
Aussi bien que le film.
C'est finalement assez différent.
C'est assez différent, d'accord. Alors,
on reste dans un même.
C'est le même schéma, c'est le même lieu, mais c'est pas exactement les mêmes histoires non plus. Là, donc, la saison 2. N'est pas la suite de la saison 1.
Ah bah non.
C'est le twist un petit peu du truc, c'est qu'en fait on revient en 1979. Je sais pas si pour ceux qui ont vu la première saison, il y a un moment, une scène de grosse tension avec le principal antagoniste de la saison 1 et le père de l'héroïne Molly, qui était un ancien flic et qui lui rappelle. Et on se demande pourquoi à ce moment-là. Il lui rappelle un massacre qui aurait eu lieu dans le même coin à Sioux Falls en 1979, et c'était un moment pour lui. Donc le personnage qui s'appelle Lou Solverson, c'est le moment où il s'est pris une balle dans la hanche et il a assisté à un massacre comme il n'en avait jamais vu, et il en parle donc avec le principal antagoniste de la première saison. Et c'est vraiment un truc que beaucoup de fans voulaient savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, et surtout est-ce que le gros méchant de la première saison, à savoir Billy Bob Thornton, qui était exceptionnel, n'a pas un rapport avec tout ça. Et ben là, on va sûrement avoir la réponse avec cette deuxième saison
qui est l'un des meilleurs méchants que j'ai jamais vu dans
un
film.
Ah mais bien sûr, mais Billy Bob Thornton,
c'est extraordinaire.
Ouais, il pue le charisme plein nez dans cette série. Oui, malgré la coupe de cheveux pourrie avec son bol qui lui arrive.
Il est incroyable cet acteur.
Et
génial.
Et donc dans cette saison 2, on va découvrir la jeunesse donc de la petite Molly, qui est encore une jeune enfant. Lou, qui est le flic local, qui va commencer à enquêter d'abord sur une affaire bizarre de...
Attends, Molly, c'est sa fille. Hein. C'est la flic de la première saison.
Donc, lui, il va enquêter sur une affaire de triple homicide vraiment très, très bizarre qui a lieu dans le premier épisode. Se joint à cette histoire de triple homicide, eh bien... il faut toujours, dans Fargo, que ce soit dans le film ou dans la série, la saison 1 de la série, un loser.
Bien sûr.
Et ben là, il y a un loser qui va être obligé de...
Bien sûr.
C'est le personnage génial. Parce
alors,
que
le gros
héros est un pur loser.
Le gros loser, cette fois, c'est l'apprenti boucher qui est incarné par celui qui jouait Todd dans Breaking Bad. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Todd.
Je croyais que tu allais me dire celui qui jouait Todd dans Mario.
Non, Todd, qui était une espèce aussi d'apprenti de...
qui se fait buter.
De Walter White, qui l'est trahi à un moment. Le petit jeune avec sa bonne bouille blonde, là, comme ça. Ben là, il a pris genre 30 kilos. pour jouer le loser de la saison.
Mais alors, c'est le héros, le loser?
Bah, ça va être sûrement un des héros, puisque pour moi, à mon avis, le héros, c'est Lou.
C'est
mais,
Lou.
Oui, d'accord. Parce que c'est toujours les flics dans Fargo, que ce soit dans le film ou la première saison.
Oui, non, mais quand je dis le héros, le personnage principal, j'ai envie de dire, parce que là, dans la première saison, c'est le héros, c'est une héroïne. C'est...
Ouais. Bon, bref,
c'est elle, c'est
Molly.
Molly. Mais non, en fait, non. C'est le Hobbit, là, comment il s'appelle ?
Martin Freeman, oui. Ouais. Bon, après,
il est comme moi, je ne lui retiens aucun nom.
Ah ouais, moi les noms.
Là,
donc, il faut un loser qui va s'imbriquer là-dedans. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais en fait, il est.
Comment tu es en train de me vendre le truc ?
Il est sûrement. Ça a un lien avec une famille de gangsters locaux. Il va essayer de réparer une erreur que sa femme, incarnée par Kirsten Dunst. Alors, Kirsten Dunst, elle est fantastique. Hein. Elle a. Elle a 33 ans, elle n'a jamais eu autant l'air d'en faire 50.
Mais non.
Ah si, alors là franchement je sais pas comment elle a
c'était
réussi.
C'était dans un sarcasme.
Ah oui, c'est totalement un sarcasme parce que.
D'accord, j'adore.
Je crois que l'alcool l'a vraiment ravagé.
C'est l'alcool. Hein,
la pauvre.
Il
faut que j'arrête
ça.
Aussi. Hein.
Bah, c'est ouais. Ça, bah, regarde Trace quoi. C'est...
Ouais. Et donc, à cause des conneries de sa femme, il va se retrouver évidemment à devenir le loser de la série, mais on sait pas encore dans quelle proportion. Il y a que deux épisodes qui ont été diffusés au moment où on enregistre.
Alors, ça fait partie de ces séries, pardon, je te coupe, sur Netflix qui sont faites avec un autre média. Et donc,
c'est diffusé sur FX aux États-Unis tous les mercredis.
Ils adoptent le mode de diffusion. Netflix se plie à cette règle. Et ne diffuse pas parce que c'est une coproduction Netflix aussi. Ouais. Donc c'est ça bien. Passe en même temps à la télé et sur Netflix, donc épisode par épisode. Donc on peut pas faire notre boulimique là et regarder
tout
les épisodes.
On peut pas tout regarder
tout
de suite maintenant. Mais déjà en deux épisodes, il y a eu énormément de séquences très drôles et de passages plus tendus quand même. Hein. Beaucoup plus tendus. Puis il y a toujours les petits moments un peu gore.
Ah, mais il y a une ambiance entre le. Je sais pas, c'est drôle et malsain à la fois. Quoi.
Ah, c'est très malsain, oui.
Ouais. C'est franchement Fargo. Il faut absolument revoir le film et revoir la série parce que attention, la première saison est liée au film. Hein.
Voilà.
Bon, alors il faut que je me remette le film avant. Quoi.
Voilà. Donc en fait, la deuxième saison se passe avant le film. Qui lui se passe donc avant la première saison voilà. Qui
donc c'est vraiment la préquelle quoi.
Et donc voilà et ça
l'antépisode
ça ne manque encore pas de clin d'œil. Il y a déjà un gros clin d'œil dans dans le deuxième épisode.
Mais est-ce qu'ils te remettent tu parlais de cette conversation dans la bagnole, ils la remettent au début de la saison 2?
Non,
pour qu'on se rafraîchisse.
Ah non, pas du tout. Non, ils ne reviennent pas sur ce qui se passe.
C'est comme ça.
Ouais, exactement.
C'est toi qui le sais parce que
tu le sais parce que t'as vu la première saison.
Ouais, mais moi je m'en serais pas rappelé du nom du truc et tout. Enfin,
ah moi cette scène elle m'avait marqué. Hein, donc j'avais trouvé ce passage bien avec une belle tension à couper au couteau. Bref, il faut savoir qu'aux États-Unis les critiques ont eu l'occasion de voir la deuxième saison en entier. Vous allez sur Metacritic, vous tapez Fargo saison 2, c'est 96%, c'est-à-dire qu'ils ont été genre tous séduits par cette saison 2. J'ai hâte de voir la suite.
Et la première saison avait été très bien accueillie.
Ah oui, la première saison a été très bien accueillie aussi.
Ah, c'est génial Fargo.
Voilà, donc ça commence très bien, c'est sur Netflix une fois de plus. En tout cas, ça commence mieux, 100 fois mieux que la 5ème saison d'American Horror Story. On aura l'occasion de vous en reparler un autre jour peut-être. Ah oui, là c'est une catastrophe pour l'instant.
Mais t'as aimé les 4 précédents.
Oui, mais ce n'est que mon avis. Voilà, donc c'est sur Fargo, j'ai envie de dire, cette excellente série que nous allons conclure cette séquence hors-jeu. Et maintenant, nous allons conclure quoi ? La petite carin.
Le podcast.
Et oui, c'est ainsi que se finit ce podcast 355.
Ah oui.
Pourquoi tu as pris ton accent natal là d'un coup ?
Tu l'aimes pas mon accent marseillais ?
Bah si si, mais ça m'étonne que tu reprennes.
J'ai l'impression que tu l'aimes pas.
Ouais, mais je sais pas. C'est bizarre. Tu le fais pas d'habitude. C'est pour
plus.
Ça. Si si.
Tu l'aimes plus.
Podcast. Si, tout va bien.
Le podcast donc qui se termine bien ma foi sur ces quelques mots qui soulignent l'expertise.
Mais là tu nous fais une imitation de Bernard Laporte en fait.
La porte. Ouais. Pourquoi la porte ? La porte qui s'ouvre, qui se ferme. Nous pourrions Et voilà, il faut s'arrêter là.
Ouais, il faut s'arrêter là. Exactement. Merci Rami. Merci Julo, merci Carole,
merci
d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté ou regardé si vous êtes premium. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast qui devrait normalement sentir bon la Paris Games Week. Normalement, je n'en suis pas sûr. D'ici là, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Des bisous.
Ciao.